La multisport.
La multisport.
Dès 17h sur Génération Soccer.
Bonjour à tous et bien pour cette première émission multisport sur Génération Soccer. Désolé pour ceux qui nous ont écoutés dans ces dernières minutes, et bien on a eu quelques petits soucis, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Donc et bien avec moi aujourd'hui pour parler essentiellement tennis, mais aussi cyclisme, parler également du 6e sacre de Sébastien Loeb, du 7e de Valentino Rossi, bien il y a Chris. Salut Chris.
Salut tout le monde.
Il y a Marvolo.
Bonsoir.
Et il y a Julien.
Salut.
Et il y a aussi Aurélien qui vient nous rejoindra peut-être au cours de l'émission, si bien évidemment sa connexion, en tout cas ses problèmes, ses divers problèmes, eh bien, sont réglés. Donc, eh bien, on va tout de suite commencer sans plus attendre, eh bien, par la grande partie tennis de cette émission. Et je vais donc laisser, eh bien, un peu la parole à Chris qui va un peu, on va dire, piloter, eh bien, en tout cas, cette partie. À toi, Chris.
Ouais. Eh bien, on commence comme le programme a été établi, c'est-à-dire par la tournée asiatique et les résultats des joueurs français. L'occasion, avant toute chose, de vous dire que, bien entendu, vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez participer à l'émission avec nous. Vous pouvez donner vos idées sur les thèmes que vous voulez aborder lors des prochaines émissions. Et vous pouvez, bien entendu, interagir sur l'émission actuelle. Alors, l'actualité au tennis, évidemment, c'était la tournée asiatique et elle a démarré à Pékin. Donc, trois Français étaient engagés, c'était il y a deux semaines. Sur les trois, seulement un a gagné un seul match, il faut bien le dire, Julien Beneteau. Julien Beneteau a remporté son premier tour, mais il a été défait au second tour face à Marin Cilic, ce même Marin Cilic, le Croate, qui a battu Rafael Nadal sévèrement en 6-1 et 6-3 en demi-finale. C'est un petit peu la surprise de cette demi-finale. Et il a été battu, Marin Cilic, il a été battu en finale par Novak Djokovic. Djokovic qui confirme que dans ce genre de tournoi, donc dans les tournois 250-500, il est vraiment top, malgré, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, un déficit, je dirais, de résultats en Grand Chelem actuellement. C'est une bonne victoire pour lui. Trois constats, je dirais, dans ce tournoi. Hein. Cilic qui confirme qu'il a un énorme potentiel. Pour moi, selon moi, c'est un potentiel de top 10. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. J'aurai l'occasion de vous le demander juste après. Nadal qui est vraiment dans le déclin face aux meilleurs joueurs. Évidemment, il gagne beaucoup de matchs actuellement. Mais quand il est en demi-finale et en finale, il cale un peu face aux meilleurs joueurs. Et donc, je l'ai dit, Djokovic qui fait une bonne fin de saison. Malheureusement, pour lui, il n'avait pas fait un bon résultat à l'US Open. Mais ici, il a l'air de se reprendre. Est-ce que vous partagez mon analyse sur ce tournoi de Pékin et cette victoire de Djokovic et ce mauvais résultat de Rafael Nadal?
Je vais commencer, en fait, parce que c'était le mot surprise qui m'avait justement moi-même surpris. Parce que, bon, Marin Cilic, ça va, depuis le temps, on connaît. Comme tu l'as dit, c'est un potentiel numéro 10, voire même un peu plus. Et quand on sait les problèmes physiques qu'a en ce moment Nadal, et justement le fait que Cilic soit bien meilleur sur surface rapide qu'ailleurs, bon, c'est plus trop une surprise en fait de le voir massacrer Nadal. La seule petite surprise, c'est peut-être de voir qu'il y a un score aussi sec, mais sinon bon, moi ça m'a pas surpris du tout.
Ouais. Quatre jeux seulement, Fabien, peut-être qu'il y a quelque chose à dire.
Bah non, mais de toute façon, comme tu disais, Marvolo, bon, Marin Cilic, c'est plus le premier venu. Comme tu l'as dit aussi, on connaît son talent et ses capacités. Après, c'est clair que quand même le voir mettre, parce que c'était quand même une grosse fessée à Rafael Nadal, c'était plutôt surprenant. Même si on peut se souvenir de sa victoire de Marin Cilic contre Murray. Je crois qu'il a fait une bouchée de Murray à l'US Open, donc bon, pas non. Le seul truc, c'est que on a vu un Rafael Nadal totalement dominé dans l'échange et surtout totalement pris de vitesse. Et c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné le fait de voir un Rafael Nadal complètement débordé. Voilà, donc après, pour moi, je pense que c'est vraiment le type de joueur qui met à mal Nadal et surtout qui montre un peu l'exemple aux autres. Nadal, maintenant, il est un petit peu moins bien, un petit peu en dessous physiquement. Et donc, il arrive plus à imposer son jeu. et donc maintenant ça devient, on va dire, un peu plus facile pour ses adversaires de le déborder en étant vraiment très offensif. Là, ses adversaires arrivent à le déborder, ils prennent confiance et voilà, Nadal fait beaucoup moins peur qu'avant, dû à sûrement à cette petite baisse physique dû à sa blessure, ouais. Et puis sûrement peut-être une perte de confiance dans son jeu.
Habib, souhaite réagir, je crois.
Non, c'est pour réagir à deux trois petites choses. D'abord, évidemment, quand tu dis ce genre de joueur, ben c'est évidemment ceux qui vont mettre de grosses fessées à Nadal, parce que ben on l'avait vu à l'US Open aussi, ce genre de joueur qui frappe fort des deux côtés, ben c'est dans cette configuration de Nadal là. Et le petit truc que je comptais, c'est quand tu dis un petit peu moins bien, il est carrément moins bien. Faut pas se voiler la face, un Nadal qui se prend 6-1, 6-3. Ça existe quasiment pas, quoi. Je crois que il est pas loin de son pire état physique qui était début 2008 où il se prend même un 6-1, 6-0 par Muzny. Autant vous dire que c'était.
Et il perdait contre Malice la semaine précédente,
ouais. Ouais, non, mais évidemment, il est absolument pas à son top physiquement. Donc, c'est franchement pas une surprise. Après, est-ce qu'il a plus de mal contre les joueurs à cadence? Je suis pas spécialement sûr. C'est surtout, il s'est fait battre par lui-même et il s'est fait battre par sa mauvaise gestion du calendrier quand il va jouer le tournoi de Rotterdam, par exemple, après le Open d'Australie. Je vois vraiment pas l'intérêt parce que bon, tu perds ton temps bêtement. Je pense que Federer, il devrait plutôt s'inspirer justement de Federer qui lui gère beaucoup mieux son calendrier. Et d'ailleurs, tu parlais de, pour revenir à Cilic, on a vu que Cilic parmi les jeunes avec des potros, c'est déjà ceux qui commencent à bien comprendre ça. Et
surtout sur ce plateau.
Ils vont surtout sur les gros tournois et puis 2, 3, 250 ou des 500 histoire de combler un petit peu un petit manque à gagner par rapport à la saison passée, vu que Del Potro était obligé, vu qu'il avait fait péter tous les IS de l'été, vu que tout le monde était aux Jeux Olympiques. Donc faut surtout que Nadal apprenne à gérer un peu mieux son calendrier.
Ouais, c'est sûr, mais rien de déchirer. Fabien, tu as quelque chose à ajouter?
Ouais, en fait, c'était pour continuer un petit peu sur ce petit débat Nadal, juste sur les deux points que tu as évoqués, Marvolo, déjà, moi je pense que, ok, tu as raison, Nadal physiquement, il est moins bien, et bon, ça c'est un fait, hein, il est moins bien qu'avant, mais je pense qu'aussi, il y a un autre facteur qui joue beaucoup, c'est que justement, ses adversaires, de fait, sont bien moins impressionnés, on va dire, par Nadal, qui quand même avant, il faut le reconnaître, avait un ascendant psychologique sur les joueurs, même avant, enfin, pendant le match et même avant le début du match, qui lui permettait, il faisait peur à ses adversaires, et ses adversaires n'osaient peut-être pas faire ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire prendre beaucoup de risques, prendre la balle très tôt, attaquer sans cesse, etc. Et là, il y a quand même un changement de mentalité de la part des adversaires de Nadal qui, justement, le bouscule, et ça change un peu la donne, quoi. Et oui, sinon, avant qu'on me réponde, sur le calendrier, tout simplement, je pense que Nadal, il a quand même été clairement obnubilé, enfin, comme tout joueur professionnel, par la première place. Et il était, sur le tournoi de Rotterdam, je pourrais pas trop contester, mais je veux dire, sur les années d'avant, tous les tournois de terre battue qu'il fait, etc., etc., je pense qu'il était plus ou moins obligé de le faire pour détrôner Federer, qui était vraiment, vraiment loin devant. Donc il a été un peu obligé, on va dire, de s'user, de faire 36 000 tournois un peu partout, pour justement chiter cette première place. Il est en train d'en payer les pots cassés, quoi.
Ouais, mais vous parliez de calendrier de blessures, il faut aussi parler, justement, parlons-en un peu du calendrier. Il est souvent critiqué, et c'est pas depuis cette année-ci, il est critiqué à juste titre, même par plusieurs joueurs, par l'entourage des joueurs. Je parlerai plus tard de Gaël Monfils, et on parlera aussi un peu plus tard de Raphaël Nadal, qui a bénéficié de deux abandons. Mais, par exemple, sur le récent tournoi de Tokyo, je crois, il y a eu 9 abandons durant le tournoi, donc c'est assez énorme. D'accord, on est en fin de saison. D'accord, certains joueurs se préservent en vue des Masters, par exemple. D'accord, certains joueurs veulent pas prendre de risques parce qu'ils veulent être au top pour la saison prochaine. Donc, au niveau des blessures, c'est un petit peu le cas de tout le monde. Concernant Rafael Nadal, je suis d'accord avec votre analyse. Mais il faut aussi souligner quelque chose, c'est que sur surface dure, il faut bien dire que depuis quelques années, c'est quand même pas la surface qu'il réussit le mieux. Oui, c'est Shanghai, c'est effectivement à Shanghai qu'il y a eu 9 abandons. C'est quand même pas la surface qui lui réussit le mieux sur dur. D'ailleurs, c'est le seul, l'US Open, c'est le seul tournoi Grand Chelem qu'il n'a pas gagné. Comme par hasard, c'est sur la surface dure. On voit que souvent, les scores les plus sévères qu'il prend, c'est sur surface dure. Parce que, tout simplement, effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, quand il joue contre des adversaires qui prennent tôt la balle, qui frappent très fort dans cette balle, Eh bien, forcément, il est vite pris de vitesse. Alors, effectivement, il a un déficit physique maintenant, mais je dirais qu'historiquement, il n'a jamais été super à l'aise sur surface dure parce qu'il a simplement, par moment, pas le jeu pour contrer le jeu des punchers, je dirais. Abby, tu es d'accord avec mon analyse ou pas?
Il a gagné l'Open d'Australie en début de saison, donc surface dure.
Ouais, la surface est quelque peu différente.
Oui, mais non, mais si on rentre dans ces considérations-là, évidemment, tu ne vas pas pouvoir expliquer que c'est du synthétique et donc ça va moins vite, tout ça, d'accord? Mais c'est pas la question de savoir si je me dis qu'il est pas bon sur surface dure. C'est pas qu'il est pas bon sur surface dure, c'est qu'il est moins bon qu'ailleurs. Mais en même temps, c'est normal. Sur terre, non, mais parce que le problème, c'est que si on va dans ce que tu dis comme ça, on a l'impression que tu vois, il est pas bon. C'est ça que j'essaie de dire, parce que il est surtout excellent ailleurs. C'est surtout ça. Il est surtout excellent dans les autres sur les autres surfaces. Bon, évidemment, sur gazon, il bénéficie, tu sais, du non moins célèbre ralentissement de surface qui fait que maintenant c'est limite devenu plus lent pour Langaros. Mais sinon, bah sur terre battue, évidemment. Donc c'est un mythe en fait, donc quand tu as Lapenti, Cagnas, Ted Potro, Ewitt, Rodic, qui te disent tous que c'est plus lent. Quand tu as des vidéos à l'appui. D'ailleurs, je t'avais
Fabien, tu disais que c'était un mythe.
Est-ce que le rebond est plus haut que sur terre battue? Ah ben non, ça bondit toujours aussi peu, donc ça reste très différent de la terre battue, je suis désolé.
Ça reste très différent, juste le rebond va à peine moins haut.
Franchement, à peine moins haut. Enfin, on va pas rentrer si dans ce débat, ça serait débile. Mais bon.
Bah, c'est pas question de débile ou pas débile, mais par rapport à, il y a une vidéo sur YouTube qui tourne par rapport à 2005 ou 2006, en se comparant 2005 et 2008, j'avais la balle qui gagnait 30 ou 40 cm de hauteur.
C'est ce que je comptais dire, donc voilà. Tu l'as dit à ma place.
Et quand tu sais que, on va pas rentrer trop dans des trucs super techniques, mais quand tu sais que Nadal c'est un lifter hors pair, c'est une sorte de super Ruggera, forcément, à chaque fois qu'il va lifter, la balle va monter de plus en plus haut, et si tu as une surface qui lui permet, justement, que sa balle puisse monter encore plus haut, à part si tu joues contre un géant ou un troll type Del Potro ou Karlovic, tous les autres, ça prennent bien au-dessus de l'épaule, et donc, du coup, ils ont quasiment aucune chance de le battre. Et d'ailleurs, tu sais très bien que c'est pour ça qu'en grande partie, le lift de Nadal lui permet de battre Federer. Tu sais très bien que c'est pas, que c'est la raison principale.
Ouais, mais enfin, c'est la raison principale. On va dire que, ouais, c'est vraiment sur ce coup-là qu'il s'est appuyé ces dernières années, justement, pour mettre à mal Federer. Mais, s'il avait aucun talent, s'il faisait pas 36 000 passings de folie en bout de course, etc., il battrait pas Federer. Donc oui, son voilà, évidemment. Non, mais il faut bien le préciser, parce qu'après, il y a des petits trolls qui racontent des conneries.
Non, mais parce que c'est pas ça. Si tu veux, tu peux aller plus loin. Tu me dis, il fait 30 000 passings en bout de course, évidemment. Mais moi, je peux te répondre aussi, tu vois, c'est toujours la façon comment tu vois le verre. Si jamais il a le temps de mettre un passing, c'est peut-être parce que le coup droit qui arrive sur Federer, il est un petit peu trop haut. Il arrive plus haut parce que justement, tu as des surfaces qui sont ralenties et uniformisées. Et d'ailleurs, quand tu parles de mythe, tu peux pas dire ça vu que maintenant, non seulement on a des surfaces uniformisées, mais on a des joueurs uniformisés qui sont bons partout. À part évidemment, et là pour le coup tu me parlais des trolls, là je peux te dire les super trolls type Ramirez Hidalgo, Granollers plus jeune, toutes les saloperies hispano-ibériques, et c'est exactement ce qui se passe. Tu peux pas nier ça parce que ce serait quand même grave.
Ouais, concernant Nadal, on a parlé de beaucoup de choses, effectivement, le ralentissement des surfaces, c'est vrai que c'était démontré ces dernières années, tu as parlé d'un graphique à juste titre, je crois que c'est la BBC qui a fait la comparaison.
Je suis en train de le chercher, puis je le mettrai sur le bar de la radio.
C'est très intéressant, je crois que c'est la BBC, je pense, qui avait fait ce graphique-là. Et il démontrait vraiment que le ralentissement de la surface. Donc, un petit désaccord avec toi, Habib, si je peux me permettre, c'est que tu disais que, l'Open d'Australie, il avait gagné effectivement, concernant l'US Open. Je n'ai jamais évidemment dit qu'il était mauvais sur cette surface-là, mais comme tu le soulignes très bien, Il a un jeu qui se démarque plus, notamment sur la terre battue avec son énorme lift. Mais justement, ce que je voulais te dire, c'est que depuis sa blessure, donc aux abdominaux, est-ce que tu ne trouves pas, toi, que justement son lift est beaucoup moins, gicle beaucoup moins sur la surface et beaucoup moins percutant qu'avant, ce qui permet aux adversaires aussi d'avancer plus facilement dans la balle. Par exemple, on peut aussi parler des revers, des joueurs qui ont un revers les droitiers qui ont un revers à une main, qui n'arrivent pas trop à contrôler son lift, mais vraiment, je pense que là-dessus, il y a vraiment un gros problème, c'est qu'il a plus la même vivacité dans le bras par rapport à son lift. Et je pense que justement, son bobo aux abdominaux en est la principale cause, à moins qu'il y ait autre chose. Mais alors là, je n'en sais rien. Habib.
Ah ben moi, je vais tout simplement te donner un autre élément que tu ne sais peut-être pas. Et je vais utiliser un argument d'autorité, à savoir Guillermo Vilas, qui a déclaré depuis 3 mois que les balles cette année sont très difficilement liftables.
Ok.
Donc à partir du moment que tu as Guillermo Vilas, c'était un reportage que tu peux voir sur Tennis Pro, c'est le programme de Gaudio, Zabaleta et Chila. Donc en fait, à Roland Garros, évidemment, il est parti comme le font les anciennes légendes, il a testé le balle et il a vu que la balle giclait moins. Alors est-ce que c'est juste une histoire de balle? Enfin, ce serait peut-être pas simple, mais pourquoi pas? Parce que on parlait des ralentissements des surfaces, mais ce qui aurait été plus juste, c'est parler des ralentissements des conditions. Et là pour le coup, ben, encore une fois, je pense qu'on peut difficilement donner tort à Vilas, quoi, parce que c'est quand même ce que c'est que le lift.
Ouais, on a parlé du tournoi de Pékin, on va maintenant parler à moins que quelqu'un ait non, je pense que c'est on a clôturé le sujet, on va parler évidemment du tournoi de Tokyo qui a eu lieu la même semaine, qui a plutôt mieux réussi aux joueurs français. Bah, d'abord le premier français qui s'est distingué dans le haut du tableau, c'est Édouard Roger Vasselin. Il est sorti des qualifications et il a battu Juan Martín Del Potro, il est vrai, diminué physiquement. Il a ensuite battu au second tour Jürgen Melzer avant de plier face à Leighton Hewitt au troisième tour. Hewitt qui avait justement battu juste le tour précédent, c'est-à-dire au deuxième tour, le pré-retraité Fabrice Santoro. Santoro qui, comme vous le savez, va prendre sa retraite dans quelques jours, dans quelques semaines.
Ou pas.
Pardon ?
Ou pas.
Ou pas, effectivement, ou pas. Il laisse entretenir le suspense, oui, mais enfin. Et je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'ignorez, mais il a sorti un livre très récemment. On en a beaucoup parlé dans la presse française et notamment dans les médias. Et donc où il parle ouvertement de dopage et il fait des hallucinations. C'est moi qui ai une hallucination. Il fait des sous-entendus assez explicites sur certains joueurs. Donc ça c'est concernant Fabrice Santoro. Est-ce que vous avez peut-être un avis par rapport à ça? Et sinon on peut peut-être essayer de rendre hommage à Fabrice Santoro. Qu'est-ce que vous retiendrez de Fabrice Santoro quand il sera parti? Parce que effectivement, je vais peut-être paraître un gars en disant ça, mais quand même, Fabrice Santoro, c'était un jeu très atypique. C'était vraiment un jeu, vraiment, j'ai envie de dire, à l'ancienne, même si c'est une expression un peu cliché. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec le départ de Santoro, c'est aussi un type de joueur qui s'en va, non? Partagez peut-être mon avis.
Je voulais juste réagir après sur... je reviendrai un peu sur Fabrice Santoro, sa carrière, etc. et mon avis. Mais bon, là, de savoir qu'il hésite à poursuivre une saison... Bon, ok, je pense que voilà quoi, c'est le tennis, c'est sa passion, c'est la passion de sa vie, etc. Mais franchement, vu la saison qu'il vient de faire, je comprends pas pourquoi il a encore envie. Enfin, je comprends pas l'intérêt de faire une nouvelle saison. Parce que moi, je l'ai vu à plusieurs occasions. Je l'ai vu notamment à Halle. Il a joué contre Tsonga sur herbe, mais c'était une tuerie, une boucherie quoi. Il s'est fait défoncer dans tous les sens. Et on n'avait pas l'impression que... Enfin, je sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il est complètement dépassé maintenant. Donc voilà, qu'il fait un peu traîner la fin, qu'il a du mal à prendre sa retraite, et voilà, il finit mal, il vieillit mal, enfin je trouve ça dommage quoi. Après, sur ce qu'on pourrait retenir de sa carrière, moi je me souviens d'un match à Roland-Garros contre Safin, où il avait fait péter un plomb à Safin. Alors là, c'est tout Fabrice Santoro, c'est son jeu, tout couché, etc., comme on connaît, et c'est ça qui est assez magique, et c'est ça qui rendait intéressant... Eh bien, de voir justement Santoro jouer. Il y a aussi son match de 6h et quelques minutes, 6h32, je crois, à Roland-Garros contre Clément, qui était énorme. Enfin, voilà, tout un tas de matchs assez sympas à voir.
Ouais. Amine, tu avais un mot?
Je vais juste commencer par répondre, et ensuite enchaîner sur la première interrogation, sur l'interrogation de Christophe. Ouais. Alors, premièrement, pourquoi il continue? Ben, il est quand même 50e. Donc, dépasser, je suis pas spécialement d'accord. J'ai pas trop l'habitude de défendre des joueurs français, mais ça va, je veux dire que quand tu as 37 ans et que tu es 50e, excuse-moi, mais je trouve ça trop dur et peut-être trop facile à la limite de dire que bon. En plus, surtout que tu me parles d'une défaite contre Tsonga sur herbe. Ah, tu t'imagines ce que ça donne Tsonga sur herbe? C'est sûrement la pire surface. C'est sûrement le pire match contre.
Non, mais ça, tu vois, c'est parce que tu as exprimé au mieux sa puissance. Mais tu vois, c'était surtout dans l'attitude que je l'avais vu totalement résigné du début à la fin du match. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il fout sur un cours? Enfin, j'avais l'impression qu'il avait totalement la tête ailleurs. Et c'est là-dessus que je m'étais dit, mais pourquoi il persiste à continuer? Et voilà, quoi. Après, ouais, 50e, ouais, c'est bien, mais on l'a tellement, enfin, je sais pas, moi, j'ai été habitué à le voir, justement, faire chier jusqu'à la top 10, des mecs, les faire péter des plombs, que là, à chaque fois qu'il joue, forcément, mais avec l'âge, c'est clair, comme tu l'as rappelé, beaucoup plus que 30 ans, voilà, c'est difficile. Mais maintenant, dès qu'il joue dans un top 30, on va dire, il se prend une tôle et ça fait un peu mal à voir, quoi. C'est ça un peu que je voulais dire, quoi.
Ouais, on a parlé.
Chaque fois qu'il se prend un top 30, je suis en train de voir rapidement, tu sais autant que moi ce qu'il a fait à l'Open d'Australie. Il fait quart de finale à Dubaï. C'est surtout sa fin de saison, si tu veux, qui est complètement pourri. Là, à Tokyo, tu me dis qu'il se prend une autre contre un top 30. Shoei Lewis, qui est 26e, ça finit en 3-7. Contre Juan Carlos Ferreira,
ouais, non, mais voilà. Bon.
Voilà, je sais pas. Dire que c'est une tôle, non, c'est trop. Pour moi, c'est trop dur. Parce qu'en plus, tu dis ça, mais il a quand même battu de bons joueurs cette année. Il a battu Kiefer. Il a battu Kiefer à Wimbledon. Il a battu Paul Schreiber. Il a battu
Kiefer. Kiefer, il est un peu dégueulasse, mais Kiefer, c'est le type de mec qui a pété un plomb sur le jeu de Santoro, et quand il commence à péter un plomb, l'allemand, ça fait très mal. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, et je suis peut-être un petit peu sévère, mais bon, moi je trouve ça pas triste de le voir, moi je le trouve moins bon qu'avant, et, c'est un peu logique, j'ai l'impression qu'une saison de plus, ça serait peut-être une saison de pro et ça serait un peu stupide. Surtout que là, attends, il a fait sa tournée d'adieu sur tous les tournois, on lui a rendu hommage à fond sur tous les tournois du Grand Chelem. Donc je vois pas pourquoi il continuerait une saison de plus, vraiment.
Ça, je vais le citer plutôt lui-même. En fait, j'ai oublié le nom de Michel Drucker, là, il avait expliqué qu'en fait, s'il avait des doutes, c'est parce qu'il pensait en fait qu'il allait cette saison être bien au-delà du top 100. Et que justement, là, quand il voit qu'il est beaucoup plus compétitif qu'il ne pense, et puis 50e, ça lui permet encore d'être des entrées directes dans les tournois du Grand Chelem. Donc, avec ce classement-là, tu vois, il peut jouer encore de gros tournois. Donc, c'est peut-être pas forcément l'année de trop. Cette année-là, mais après l'année, c'est celle d'après, moi, je ne veux pas forcément spéculer. Hein, parce que si on commence à rentrer là-dedans. Tu vois, on peut dire aussi qu'il y a des joueurs qui peuvent arrêter. Hein. Julien Benito, à la limite, il a qu'à arrêter parce que de toute façon, il n'a jamais rien fait de sa carrière. Il ne fera quasiment jamais rien. Hein. À part les 2-3 tournois en France qu'il
a gagné. Ah si, il a quand même fait un quart de finale à Roland-Garros. Hein. À Roland-Garros. Et je ne sais pas si tu te souviens cette année, à Wimbledon, il menait 1-7-0 contre Djokovic et il était tout proche de mener 2-7-0. Eh, c'est pas mal.
Ouais, mais bon, en même temps, Olivier Patience aussi était à deux doigts de battre Djokovic à Roland-Garros il y a 3 ans, et puis il se prend les 3 derniers sets dans la gueule. Donc tu vois, ça veut pas dire grand-chose. Et puis, c'est pour ça, moi je te dis, tu vois, j'essaie de pousser le truc à l'extrême, de te dire que Benedetto, tu vois, il a 10 ans de moins que... Il doit avoir 8-9 ans de moins que Santoro.
Je crois qu'il a 29 ans de mémoire, mais je sais que c'est...
Voilà, Santoro est 50e, Benedetto est 17e, il n'y a pas de quoi. Il y a 17 places de différence entre les deux. Ouais. Tu vois, il n'y a pas non plus quoi...
Tu peux vous interrompre
tout ça pour dire que par rapport à... peut-être un peu dur.
Excuse-moi.
Et puis juste pour revenir sur ce que tu disais, évidemment que c'est un peu chiant qu'il parte, parce que, comme tu disais, les joueurs atypiques, c'est... Il en fait partie, il en a de moins en moins, surtout que j'en parlais juste avant. Maintenant on a des joueurs uniformisés, c'est tous des mecs qui sont bons des deux côtés, ils sont quasiment aucun point faible, mais très peu de coups forts en fait. Et bon, c'est dommage de voir qu'un Santoro, qui est quand même un des meilleurs joueurs quant à la variété des coups, qu'il s'en aille. Mais après, je peux comprendre aussi GG, parce que le côté retournement de veste, alors que justement il s'est fait ovationner un peu partout, il a eu des wildcards qu'il n'aurait sûrement pas eu si c'était pas sa dernière saison. Mais bon, c'est dommage.
Ouais, je peux vous faire partager deux réactions. Julien nous dit que Julien Benedetto a 27 ans, et une petite réaction d'un ami bordelais. dont le pseudo est FX, le bordelais forcément, Santoro prendra sa retraite après l'Open d'Australie 2010 pour être le premier joueur à avoir joué les grands chelems sur 4 décennies, dit-il.
La multisport.
La multisport.
Dès 17h sur Génération Soccer.
Joey Fritzonga avait remporté donc son cinquième tournoi ATP en battant en finale le Russe Mireille Luzny. Donc voilà, est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Bah ouais, en tout cas c'était une bonne performance pour Joe Tsonga, qui avait quand même raté le coche la semaine dernière à Shanghai. Non?
Pardon?
C'était la semaine d'avant où il fait quart à Shanghai?
Non,
c'est juste après. Et il n'a pas fait quart, ouais. Il me semble qu'il a fait huitième de finale. Il a été battu par Söderling.
Ah, je me souviens plus. Donc ouais, il était bien lancé avec cette victoire. Et bah voilà. C'est un peu dur de parler de cette victoire quand on sait ce qui est advenu après. Parce que pour moi, je pense que avec cette défaite derrière à Shanghai, il a quand même sérieusement hypothéqué ses chances. Enfin, il a bien hypothéqué ses chances d'aller au Masters de Londres. Et voilà. Quoi. Ouais. Donc, j'étais un peu déçu avec cette défaite. Mais bon, ça fait toujours un titre ATP de plus, ça c'est clair.
Ouais. Et puis pour revenir à l'histoire de ballotage favorable ou pas pour le Masters. Là, on a déjà 6 joueurs officiellement qualifiés, Davidenko quasiment qualifié, et puis la dernière place, ça va jouer entre Verdasco, Söderling, Gonzalez ou Tsonga. Il est quand même derrière Gonzalez.
Söderling est blessé. Hein. Söderling s'est blessé au coude. Donc,
Söderling est blessé, mais il avait déjà quasiment 200 points d'avance, et puis il a, sans compter les points qu'il aurait engrangés à Stockholm. On en parlera peut-être enfin.
Söderling qui a gagné Stockholm à domicile.
Non, il a pas gagné Stockholm.
Non, je dis une bêtise. Il a gagné un autre tournoi en Suède, mais
c'était. Ah non, il a pas gagné à Stockholm. Il a abandonné en
demi-finale. Oui, non. Effectivement.
Enfin, il a abandonné. Ouais,
il avait gagné un autre tournoi en Suède. Je me souviens aussi.
Oui, c'est pour ça que, j'ai commis une erreur. Il a gagné un autre tournoi en Suède il y a un mois et demi.
Donc voilà, donc en gros, je pense que ce sera Davidenko et Verdasco, les deux derniers qualifiés. Donc,
moi, j'avais juste une petite question à vous poser, parce que j'ai pas trop compris un truc. J'ai lu quelque part sur un site, pour pas le nommer Eurosport, que je sais pas, il disait que Joe allait devoir se reprendre à Bercy. Mais je sais pas si ça se trouve, je dis une énorme connerie, mais il me semble qu'à Bercy, il peut pas gagner de points vu qu'il est tenant du titre.
Oui, mais ça, c'est la race, justement.
Oui, c'est
vrai. Tu vois. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche, en fait.
Ah, c'est plus comme ça que ça marche. Ah ouais, non, oui.
Non, c'est pas question que c'est pas comme ça que ça marche, mais on fait le classement sur l'année, tu vois.
Ouais, je suis con. C'est au niveau de la TP que ça bougera pas, mais sur la race, ça peut bouger. Ouais, tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, ça c'était pour le tournoi de Tokyo.
Et attends, c'est juste une petite question. Sur Bercy, est-ce qu'il y en a un moi, j'ai pas regardé, mais il y a combien de points en jeu, en fait?
Sur Bercy?
Ouais, il y a 1000.
Probablement, c'est un 500, Bercy, non? Ou à 1000?
Non, c'est un 1000.
Bah, il y a 1000 points.
Pour le vainqueur?
Je pense, oui.
Ouais, voilà. Donc, ouais, tout est encore jouable pour Tsonga au final. Même si ça va être difficile, enfin, je sais pas s'il est capable quand même d'aller, parce qu'on l'a quand même vu cette saison, il le disait lui-même, il s'est quand même arrêté pas mal de fois en quart de finale, huitième quart de finale des gros tournois. Donc c'est clair que là, bah maintenant, c'est un peu l'heure de vérité. C'est à lui de prouver qu'il a sa place au Masters. Même si, enfin, je sais pas, je sens pas trop Joey Fritzonga. On verra bien, quoi.
Ouais. On a parlé donc des deux tournois qui ont fait le triptyque asiatique. On va parler du dernier tournoi. Vous en avez déjà un petit peu parlé en prélude, c'est-à-dire le tournoi de Shanghai qui a eu lieu la semaine passée, avec une belle perf pour Gilles Simon. Enfin, c'est en tout cas le Français qui s'en est le mieux sorti. Mais il était battu une nouvelle fois par Novak Djokovic, le Serbe, en 3-7 quand même. Il était battu donc en quart de finale. Et c'est en effet le meilleur résultat français, car Joe Wilfried Tsonga a été dominé par la révélation de l'année 2009. C'est mon point de vue, Robin Söderling. On l'attendait pas à ce niveau-là, il faut bien l'avouer. Mon fils a également été battu en huitième de finale. Bah, de son côté, il n'a pas pu terminer son match contre Ljubicic. J'ai vu le match, il était assez pathétique. Je me demandais ce qui n'allait pas. Et il a abandonné à 3-0 dans le deuxième manche, sans doute diminué physiquement. Et il faut dire que les batteries étaient à plat dans ce tournoi-là. Raphaël Nadal, moi, vous avez quelque chose à dire, vous m'interrompez. Raphaël Nadal, Il a bien, on parlait tout à l'heure des abandons, pardon. Rafael Nadal a bien profité de ses abandons dans ce tournoi de Shanghai, puisque ses adversaires en quart et en demi-finale ont abandonné. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en finale, son adversaire, il n'a pas du tout abandonné. Il l'a même très largement dominé, malgré le score serré. 36 coups gagnants à 9 pour Nikolaï Davydenko, qui n'a tout simplement pas tremblé en finale. Il a montré qu'il pouvait dominer les meilleurs, et notamment le convalescent mallorquin, Nadal, qui semble, comme je l'ai dit tout à l'heure, incapable depuis son retour de battre les meilleurs joueurs. Mais on a déjà un petit peu parlé de tout ça tout à l'heure. Rafael Nadal, qui depuis son retour n'arrive pas à battre les meilleurs joueurs. Est-ce que vous pensez que son déclic par rapport à Federer, à Djokovic, ces joueurs qu'il perd contre eux maintenant, est-ce que ce déclic-là, il va le retrouver sur la terre battue courant avril-mai? Ou alors est-ce que vous pensez qu'il va peut-être revenir au top dès janvier en Australie? Il devra quand même, parce qu'il devra défendre son titre à Melbourne.
Bah, en tout cas, je pense que le temps, en tout cas la récupération qu'il va avoir à la fin de la saison, va lui être bénéfique. Après, on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer, parce qu'on sait pas comment il va finir cette fin de saison. Est-ce que sa blessure elle va encore se réveiller un peu plus qu'elle n'est encore, parce que pour moi, je pense pas qu'il soit totalement rétabli. Après, à savoir si il sera peut-être performant dès janvier ou s'il sera performant à Roland-Garros. Enfin, sur terre battue, j'en sais rien, mais sur terre battue, s'il n'est pas à 100% de ses moyens physiquement, avec tous les points qu'il a à défendre pour le classement ATP, qui a retenu la leçon, je pense que ça risque d'être difficile. Donc voilà.
Après, il y a moins de points à défendre cette année que les autres années, hein, n'empêche.
Sur terre battue. Bah ouais. Du fait de sa contre-performance, mais il a quand même tous les points des tournois avant à défendre. Et ça, il en avait fait un petit paquet encore cette année. Donc voilà quoi. Il va être. Enfin, je sais pas. Va-t-il avoir la lucidité de zapper un des tournois? Le problème, c'est qu'il y a toujours le tournoi, je crois, de Barcelone qu'il veut faire, parce que voilà, c'est Barça, etc. Alors que c'est pas un tournoi très important. Donc est-ce que là, il va le zapper? Il va en zapper un des différents pour arriver plus frais à Roland-Garros? J'en sais rien. C'est toujours l'éternel débat du calendrier de Nadal. Voilà. Après, sur le déclic Federer, Djokovic, etc. Ça va être quand les jouants qui pourraient les retrouver. Mais là, il est quand même, enfin, de ce qu'on voit, il est un ton en dessous. On sait pas. Enfin, voilà. Quoi. Pour l'instant, moi, je dirais que ça risque d'être compliqué. Mais voilà, Nadal, il a montré par le passé. Enfin, on sait qu'il a des ressources mentales assez importantes. Mais bon, on connaît pas ses capacités de réaction dans une situation difficile, parce que c'est vraiment la première passe difficile de sa carrière. Voilà.
Ouais. Tu parlais du tournoi de Barcelone. Je pense qu'il a vraiment retenu la leçon cette année-ci. La saison prochaine, donc en 2010, je pense pas qu'il ira. Et n'oublie pas que la semaine après Barcelone, il y a la finale à Madrid, qu'il avait perdu contre Roger Federer. Et c'est finalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais la demi-finale contre Djokovic, qui était un match complètement épique, qu'il gagne de justesse. Ça a commencé, je dirais, à Madrid, ces pépins. Hein. Il a perdu ensuite contre Federer. Ensuite, bon, on connaît sa défaite à Roland-Garros. C'est vraiment à ce niveau-là. Donc, je pense vraiment que cette année-ci, il a un petit peu gardé un petit traumatisme post-Roland-Garrosien, et il fera vraiment attention à tout ça. Alors, on a peut-être plusieurs réactions. Donc, Fix, le Bordelais, qui revient sur Joe Wilfried Tsonga, il disait que Joe avait raté le coche face à Victor Troicki à Bangkok.
Et justement, j'allais te poser la question, parce que tu parlais de la tournée asiatique, mais ça commençait une semaine avant, en fait, parce qu'il y avait eu deux tournois. Il y avait eu celui de Bangkok, justement, que Simon avait gagné, et un autre en Malaisie, exact. Il me semble. Je sais plus trop, que Davydenko avait remporté, justement.
Oui, exactement. Mais dans le programme de Fabien, on avait il avait décidé d'évoquer ces trois sujets-là, et on les a évoqués, effectivement. On
peut. Ah bon, Fabien. Donc tu décides d'éluder maintenant une victoire d'un joueur français.
Ah ben, voilà. Je suis belge, c'est son rôle à lui, hein, c'est pas le mien.
Voilà, comment il me balance la responsabilité, c'est assez énorme. Non mais c'est un petit oubli de ma part, tout en sachant que ouais, il a raison de le souligner à Fix, maintenant que. Ouais. Il a raison que Tsonga, quand même, avait. Enfin, c'était le tenant du titre à Bangkok, il faut le souligner. Et que perdre sur un mec comme Troicki, je ne sais pas si vous connaissez sa technique de service, mais elle est assez dégueulasse, même sa technique en général. C'est quand même surprenant. Et c'est vrai que cette petite victoire de Gilles Simon, bon, je pense qu'on reviendra à nos quatre mousquetaires plus tard dans l'émission, mais elle était. il fallait la souligner. Voilà.
Oui. Fix qui laisse un autre commentaire, et Fix toujours notre ami bordelais, qui nous dit que Nadal actuellement il est à 100%. Il est tombé sur Davidenko qui est un joueur qui lui pose toujours des problèmes, comme à Miami l'an passé où il avait reçu, je cite, une fessée. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Je crois que Habib m'avait demandé en premier la parole, donc je lui la laisse.
Ouais, moi ça me... C'est... Je sais même pas comment on peut dire un truc pareil, quoi. Comment on peut dire que Nadal est à 100%? C'est monstrueux, ça. C'est d'une part monstrueux, et deuxièmement, tu me dis qu'il se prend une fessée à Miami. Nadal, tu vois, il a une gestion de calendrier comme un coureur cycliste. Donc, si tu veux, son pic de forme, c'est la saison de terre battue et Wimbledon. Donc, qu'il se fasse battre à Miami, franchement, il s'en fout un peu, quoi. Donc, après, s'il accorde autant d'importance à ça, bon. Parce que bon, surtout que Davidenko, c'est quand même, allez, parmi le top 10, on va utiliser le mot à la mode, c'est quand même le troll, quoi. C'est celui qui va gagner tous les Masters au rabais. Et là, déjà à 3 Masters, et à chaque fois, c'est des Masters au rabais. C'est genre de Masters comme à Shanghai où il y a une hécatombe. Ou alors, ben, comme à Miami 2008, où bon.
C'est un Masters 1000 quand même, hein, Shanghai.
Ah oui, ça reste un Masters 1000 quand même, mais en même temps, ça reste quand même des circonstances très douteuses, on va dire.
Ouais. Je vais laisser la parole à Fabien qui souhaite réagir, mais avant ça, je vous rappelle qu'évidemment, comme est fixe notre ami bordelais, vous pouvez laisser toutes vos réactions et on en fera part à l'antenne. Et vous savez évidemment que vous pouvez nous évoquer des thèmes sportifs, c'est-à-dire les sujets sportifs qu'on évoque rarement. Si vous avez une passion pour un sport inconnu ou même un sport plus connu, vous pouvez toujours participer. Évidemment, tout le monde est le bienvenu. Je crois que Fabien a une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit.
Ouais, c'était sur la réaction de FX le Bordelais. Bon, déjà, je voulais réagir, mais Marvolo l'a fait avant moi, bien évidemment, sur le fait de dire que Nadal était à 100%, c'était un peu débile. Après, je suis aussi d'accord avec toi, Marvolo, sur Davidenko. Je pense que lui, il a un petit souci au niveau mental et qui le sépare justement d'une victoire en Grand Chelem, parce qu'il, enfin, il a pas un jeu exceptionnel, mais bah voilà, son jeu, c'est de prendre la balle très haut. Et c'est de contrer, etc. Donc il a quand même un bon fond de jeu qui pourrait le voir faire de bonnes performances en Grand Chelem, mais il cale toujours au niveau des quarts demi. Donc pour moi, il a un problème mental. Et après, et comme on le voit d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que il gagne ce master, ses choix derrière, il perd sur Safin, non?
Ouais. Bah oui, au premier ou au deuxième tour. Après,
au premier tour, et derrière Safin perd contre une merde, je me souviens plus du nom,
mais non, pas Kukushkin, mais c'est pas une merde en fait, parce que Safin perd contre Korolev. C'était le tenant du titre l'an passé. Donc,
ouais, non, mais Korolev, je l'ai vu jouer à Metz. Il était.
Non, mais Korolev, c'est un troll, on est d'accord. C'est un Troïki, comme tu parles de Troïki. C'est un Kendrick. C'est. Voilà, c'est le genre de joueur qui frappe fort tout le temps.
Kendrick, tu vois. Ouais, Kendrick, il a un peu la classe avec sa petite casquette à l'envers. Moi, je l'aime bien, Kendrick, au niveau de son style. Non, mais c'est vrai, en plus. Il a du style, quoi. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, sur Davidenko, c'est un joueur qui pose des problèmes à Nadal. Bah, c'est tout à fait logique, et c'est ce que j'essayais d'expliquer au début de l'émission. C'est que voilà, Davidenko, c'est le genre de joueur qui va prendre la balle tôt et qui va agresser justement Rafael Nadal, et c'est tout ce que déteste Nadal. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de plus en plus de joueurs et eh bien qui le font face à Nadal, surtout à mon avis parce que justement bah voilà, le lift de Nadal, il est moins important. Nadal, il agresse. En tout cas, ses frappes de balle, à mon avis, sont beaucoup moins lourdes. Donc, il laisse, en fait, la possibilité, à ses adversaires de développer leur style de jeu. Voilà.
Ouais, on va, maintenant qu'on a évoqué un peu ces tournois-là, on parlera tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas, très brièvement des résultats qui ont lieu cette semaine. Si Novak Djokovic essayait pas de faire évoluer son jeu, mais il était un peu embêté parce que les autres joueurs, quand on va parler de Del Potro, de Murray, les autres joueurs passent devant lui. Alors effectivement, ça c'est ce que je me suis dit, la réflexion que je me suis faite en milieu de saison. Effectivement, il fait une bonne fin de saison, mais c'est quand même pas suffisant sur une année pour pouvoir, embêter le duo Nadal-Federer. Ensuite, il y a Andy Murray. Andy Murray, son jeu plafonne, il faut pas chercher de faux fuyants. Effectivement, c'est un très bon joueur. Effectivement, son défaut principal techniquement, c'était toujours son coup droit d'attaque ces dernières années. Il a progressé à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, il utilisait beaucoup son coup droit, je dirais, entre guillemets, un peu à plat bloqué pour contrer la puissance adverse. Mais quand lui doit faire le jeu avec son coup droit, c'est galère par rapport à des joueurs comme Rafael Nadal ou Roger Federer. Nadal, revenons-en. Bah, c'est vrai qu'il revient de blessure. C'est vrai que pour le moment, il ne fait pas des super résultats. mais il reste quand même un grand champion. Il a aussi cette fibre de champion là. Il a un mental absolument exceptionnel dans les grands rendez-vous et notamment dans les grands chelems. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'il soit totalement fini. J'ai parlé de Djokovic, de Nadal, Del Potro, le quatrième joueur. Bah, lui, il a fait un grand coup à l'US Open. Mais on n'est pas sûr que ce soit un one shot ou une confirmation. C'est toujours l'année de la confirmation la plus difficile. L'année prochaine, ce sera très difficile pour lui. N'oublions pas que Del Potro revient de loin. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'Open d'Australie, il prend une tôle sur Roger Federer. Donc, il a vraiment une courbe ascendante absolument fantasmagorique cette année. Mais est-ce que cette courbe va être confirmée l'année prochaine? Rien n'est moins sûr. Et bien entendu, Roger Federer, je vais pas être original, c'est Roger Federer. Donc, c'est quand même un joueur, malgré que l'âge va prendre un petit peu le pas sur lui, et c'est tout à fait logique, hein, on est bien d'accord. Malgré tout, ça reste quand même le meilleur joueur actuellement du monde. Donc, je pense qu'effectivement, Nadal Federer, pour répondre à la question, c'est pas encore une période totalement révolue. Je dirais que dans 2-3 années, ça pourrait être une période révolue. J'attends de voir les trois joueurs qui sont derrière les deux premiers mondiaux, comment ils vont réagir et surtout s'ils pourraient faire ce genre de bons résultats tout au long d'une année. Et je crois que Murray, Djokovic et Del Potro manquent de cette régularité cette saison-ci. Et je pense qu'ils en manqueront encore peut-être la saison prochaine. Voilà ma réponse à la question. Peut-être une réaction de Habib.
Ouais, je vais commencer. Je pense qu'on va essayer de comme je sais que Fabien va faire veut aussi réagir, je pense qu'on va essayer de faire du cas par cas. Donc on va commencer par Djokovic, si tu le veux bien, Fabien. Moi je pense déjà qu'il a un problème mental, parce que après avoir fait le kéké des villes, quand il avait gagné l'Open d'Australie l'an passé, où il expliquait qu'il allait tout déchirer, qu'il allait exploser tout le monde, que c'était le nouveau dieu du tennis, il s'était malheureusement attiré l'attention de tout le monde, et donc du coup ça avait un petit peu motivé tout le monde pour lui mettre une tôle. Et puis je pense que mentalement il a lâché quand il a vu que finalement, même en donnant tout ce qu'il avait, il n'arrivait pas à justement revenir sur Federer, qui était encore premier à l'époque, Nadal a réussi en plus à le passer, donc ça a commencé à déstabiliser. Il a dépassé Federer bien sûr, hein, donc ça l'a peut-être déstabilisé. Mais après, dire qu'il a fait une saison irrégulière, enfin, ou plutôt il a fait qu'une bonne fin de saison, je suis pas trop d'accord, parce que bon, il remporte Dubaï, il fait finale à Miami, il fait finale à Monte Carlo, il fait finale à Rome. En fait, finalement, il s'est surtout loupé lors des deux grands chelems, les deux grands chelems de demi-saison, donc Wimbledon et Roland Garros. Ce qui est quand même énorme, hein. On est d'accord que c'est énorme, hein, pour un joueur qui aspire à être numéro un mondial. Mais sinon, en fait, il avait bien commencé la saison, il a bien fini la saison, il a juste eu un petit creux, ça arrive à beaucoup de joueurs. Donc, non, je pense pas que ce soit juste une histoire d'irrégularité. Peut-être plutôt, un mariage des jeux qui finalement, avec les meilleurs joueurs du moment, lui est défavorable. Et un problème mental, parce que bon, il a clairement compris qu'il ne pouvait pas devenir numéro un mondial.
Oui, tu continues sur Murray peut-être?
Non, en fait, je pensais que Fabien, pour que ça soit juste un peu plus structuré, je me suis dit, bon, j'aurais réagi sur ça, Fabien réagit, ensuite on enchaîne au cas Murray, puis d'être...
Ouais, on peut le faire. Donc là, c'est sur Djoko, c'est ça?
Ouais.
Sur Djoko, moi je pense que... on en avait déjà parlé, mais je pense que vraiment sa défaite... le point de départ, ça serait de revenir sur le match de 4 heures... qui avait duré 4 heures à Madrid en demi-finale contre Nadal. Où justement, Djoko, je crois qu'il a balle de match, il finit par perdre contre Nadal.
Il n'en a pas qu'une, hein. Ça je peux te le dire.
Ouais, il en a plusieurs. Je sais plus combien il en a, mais il en a plusieurs.
6 ou 7, si je dis pas de conneries.
Et je pense que déjà, ce match a desservi les deux joueurs un truc de fou, parce qu'ils sont arrivés derrière Roland Garros complètement épuisés physiquement et mentalement. Et je pense que, là on parle de Djoko, je pense que ça l'a beaucoup amoindri. Derrière, il perd à Roland Garros au troisième tour contre Kohlschreiber en 7. Et je pense que ça a un peu flingué la suite de sa saison. Parce que derrière, il a plutôt... Bon, après je connais pas, je me souviens plus exactement de ses résultats, mais j'ai pas souvenir qu'il ait fait de gros résultats.
Voilà. En Master 1000, il a quand même accroché 3-4 finales.
Ouais, il tient son rang, mais il fait pas non plus de grandes folies.
Demi-finale à l'US Open aussi.
Demi-finale à l'US Open également.
Et quart où il fait sa chouineuse contre Roddick à l'US
Open. Voilà. Là, tu me lances parfaitement. Moi, je voulais justement revenir sur ce point-là. Djokovic, c'est un joueur que j'ai du mal à justement à porter dans mon cœur. D'ailleurs, je le porte pas dans mon cœur pour tout dire. justement à cause de ce caractère, il a vraiment un caractère de merde sur le terrain. Alors avant, il utilisait sa spéciale de dire qu'il avait du mal à respirer. Enfin, c'était
problème de cloison nasale
dans tous les sens. Voilà, il en rajoutait dans tous les sens à chaque fois. Et je trouve que ce joueur, il a un comportement vraiment un comportement de merde, quoi. Il est tout le temps nerveux. Enfin, il balance sa raquette, il tape sa raquette. Je sais pas si vous avez vu. Je crois que c'était contre Simon là où il fait 3-7. Je me souviens plus le tournoi, il y a pas longtemps, où il y a un échange de dingue, il le perd, il défonce sa raquette sans raison.
Voilà, c'est à Shanghai. Hein.
Ouais, voilà, c'est à Shanghai. Mais voilà, il a un peu un caractère de pute, hein, il faut le dire. Et voilà, c'est ça que j'aime pas trop chez lui. Après, c'est vrai que sur cette saison, par rapport à la saison dernière, on va dire que, je dirais pas qu'il a stagné, mais presque. Hein, franchement, enfin voilà, il a un peu déçu, on va dire, par rapport à ce qu'il avait montré la saison d'avant où il avait remporté l'Open d'Australie.
Je pense qu'on peut évoquer le cas Andy Murray avec cette fois-ci Fabien qui commence son analyse.
Oh ouais, non mais analyse c'est un bien grand mot. Sur Andy Murray, je pense que sur Andy Murray, bon après c'est subjectif, mais voilà, il est arrivé à Wimbledon, il avait quand même la grosse pression. C'était tout un peuple qui l'attendait, qui le voyait déjà triompher à Wimbledon. Voilà, il a failli entre guillemets à sa tâche, et peut-être que c'est peut-être un peu resté dans sa tête sur les matchs d'après. Et voilà quoi, il y avait énormément d'attentes, il est un peu déçu. Derrière, on connaît la suite à l'US Open, il se fait défoncer, on va dire, par Cilic. Donc voilà, Andy Murray qui est on va dire sur une pente plutôt descendante, si je peux dire. Et donc lui aussi finit pas super bien sa saison quoi.
Je suis pas d'accord, je suis sur un point où tu expliques qu'après Wimbledon, il a un contre-coup mental. Juste après, il enlève le Master du Canada en battant Davidenko de Tsonga et Del Potro. Donc, je suis pas sûr que ce soit un contre-coup aussi fort que ça. Je pense que surtout, Murray, et là je rentre dans une analyse très 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 personnelle avec tout ce que ça implique. C'est sûrement le joueur le plus surcoté que j'ai vu depuis 10 ans. On a l'impression qu'il va faire grand chelem sur grand chelem pendant 30 ans et qui va finir avec 72 grands slams. Justement, faut arrêter un petit peu quoi. Quand on voit qu'il est favori à quasiment tous les grands chelems alors qu'il a jamais gagné de grand chelem, c'est tout simplement pas possible. Ça, tu peux demander ça à n'importe quel joueur pro de première, deuxième ou même des amateurs de deuxième ou troisième série. Un joueur qui n'a jamais gagné de grand chelem ne peut jamais être considéré comme favori pour le gagner. Et c'est malheureusement ce qu'on a avec Murray. Murray, c'est le mec qui fait finale à l'Open, enfin n'importe quoi, à l'US Open l'an passé, et depuis on se dit qu'il va gagner. Depuis, il a régressé lui aussi finalement, hein, parce qu'en Grand Chelem, il fait de moins bons résultats, demi-finale dans le meilleur des cas. Et puis moi, au-delà, au niveau de son jeu, quoi, il est super chiant à avoir joué. C'est un joueur que j'appelle moi-même Doliprane, parce que la boîte de Doliprane n'est jamais loin, quoi, parce que c'est super chiant à avoir joué. Il remet la baballe souvent, et puis il attend que c'est une sorte de mon fils un peu plus évolué, parce qu'il a quand même 2-3 coups en plus, même s'il a moins d'explosivité et moins de puissance. Mais moi, ouais, franchement, c'est...
Ouais, une des forces de Murray, c'est aussi il s'appuie quand même sur un service qui est vachement performant, parce que l'air de rien,
c'est pas comme si mon fils avait pas de bon service quoi. Par contre, tu me dis ça, mais je te renvoie juste au match de Murray contre de très gros retourneurs, et là tu vois que son service, il est pas aussi bon que ça.
En tout cas, sur
il se met à paniquer. Parce que si tu veux,
justement,
Murray, c'est pas un geste inné le service. Il a pas été toujours bon en service. Il a énormément progressé depuis quelques années, mais à chaque fois qu'il joue contre de bons retourneurs, ça se passe très mal. Hein.
Ouais. Il y a une petite réaction sur le forum là. Je vais la lire. Je la vois de FX Bordelais qui dit que l'an prochain Murray doit prendre l'exemple sur Del Potro, qui lui montre la voie à suivre, notamment sur son jeu vers l'avant. Pourtant, Murray n'a pas de main. Je suis tout à fait d'accord, en tout cas, sur le fait qu'il est quand même
super bon
demain. Mais non, mais c'est clair. Mais après, c'est pas le style de joueur qui va prendre le jeu à son compte. Donc c'est après, c'est clair que c'est plus facile de le critiquer. C'est quand même un joueur comme J. Simon, qui a une technique pas folichonne et puis qui joue tout en contre, etc. C'est pas exceptionnel à voir jouer, mais c'est terriblement efficace, voilà.
Excuse-moi, mais Simon, ça m'énerve à chaque fois d'entendre le même cliché bidon sur Simon. Simon, c'est quand même un joueur qui fait une moins bonne saison cette année, parce que justement, il essaye d'attaquer beaucoup plus. Simon l'an passé, ouais, il était chiant, mais vraiment chiant comme la mort. L'an passé, il n'y a pas un seul bon match de Simon sur toute l'année. Cette année, t'en as quand même quelques-uns, notamment le match dont tu as parlé tout à l'heure contre Djokovic à Shanghai. Où, franchement, c'est un superbe match. Mais Murray, tu te fais
souffrir. Non, franchement, Simon l'an dernier au Masters, justement, il sort il fait franchement des gros matchs où il commence déjà à être un peu plus offensif.
C'est ça, justement.
Le match à Madrid sur dur contre Nadal, enfin son tournoi de malade, l'avait bien inspiré. Après, t'as raison de dire que, ouais, voilà, enfin, ça, je pense qu'on y reviendra plus tard dans l'émission, mais Simon, bien évidemment, assez intelligemment, il a essayé de faire évoluer son jeu vers l'avant. Bah, c'est vrai que se forcer à jouer un peu contre nature, en tout cas forcer à évoluer son jeu, bah, ça n'a pas été facile pour lui. Et puis aussi, il traîne quand même sa blessure au genou, un peu comme mon fils, comme un boulet, quoi. Parce que les mecs, ils veulent pas se faire soigner vraiment, enfin, opérer ou des trucs comme ça, mais ils se traînent leur blessure et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Enfin,
voilà. Ouais. Concernant ce que vous disiez sur Simon et Murray, je vais pas vous contredire, mais quand même, si on considère que Andy Murray n'a pas un jeu super folichon à regarder, on peut pas totalement dire que Gilles Simon soit totalement différent de ce style de jeu-là. Donc si on commence à dire que le jeu de Murray est entre guillemets chiant, bah, le jeu de Simon l'est tout autant. Enfin,
ça, bah non, non, pour une raison très simple, le jeu de Simon était très chiant, maintenant il est plus ou moins regardable. Ce qui est quand même pas du tout la même chose.
Je ne partage pas ton avis sur cela, mais enfin, bon, chacun. C'est vrai qu'il a.
Enfin, et puis là, surtout la grosse différence, si tu veux, c'est que.
La plume qu'il y a rien dans le jeu, quoi.
Non, mais si tu veux, moi, un joueur qui décide de jouer vers l'avant, eh ben, s'il a une saison moins bien, eh ben, bah, je suis indulgent parce qu'il fait au moins l'effort de justement d'être plus spectaculaire, d'avoir un jeu plus agréable à voir jouer. Au final, d'être un vrai joueur de tennis. Là, Murray. C'est avant tout un retourne-baballe, quoi.
Ouais, on va conclure un peu sur ce sujet-là avec votre avis sur Del Potro. Est-ce que selon vous il va confirmer la saison prochaine la super bonne fin de saison qu'il a fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait vraiment une courbe ascendante. Et est-ce que selon vous il peut confirmer, surtout qu'il a un jeu très risqué? Je pense que, par exemple, des super tacticiens à la Federer, bon, évidemment, là, Federer m'a contredit en finale de l'US Open, peut vraiment l'embêter parce qu'il a un jeu tellement à risque que c'est un jeu qui se dérègle le plus facilement. Je pense que ça, vous n'allez pas me contredire. Et donc, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que Del Potro peut confirmer la saison prochaine? Peut-être une réaction de Top Foot 3 qui nous dit: que pensez-vous de la victoire de Stockholm? La victoire à Stockholm de Baghdatis, on en parlera juste plus tard dans l'émission. Et donc, vous avez peut-être un avis à nous dire sur Del Potro. Est-ce que vous pensez réellement qu'il peut déranger, puisque c'était la question, ou déloger le duo Nadal-Federer la saison prochaine, Fabien?
Ouais, non, mais déjà sur Del Potro, quand tu dis que il y a des superbes tacticiens qui peuvent le mettre à mal, mais franchement, je sais pas, il suffit d'avoir ne serait-ce que un QI pour comprendre que contre Del Potro, le slice, ça marche du tonnerre, parce que
ça a bien marché, ça a très bien marché à Roland Garros, ça a très très bien marché à l'US Open. Non, ça c'est le vieux cliché bidon. Tu vois, Del Potro, tu parlais d'avoir un QI, et bien Del Potro alors il a deux de QI, parce qu'en fait il a compris que ça marchait pas les slices, il a passé la moitié de sa saison à bosser au Lao Tennis Club de Buenos Aires, à justement baisser ses cannes pour frapper dans la balle quand tu slices.
Alors comment tu m'expliques qu'il s'était fait démonter par Federer à Roland-Garros, uniquement, en tout cas,
en grande partie, en 5-7?
Bien sûr que si. Attends.
Au bout d'un moment, faut juste choisir ses mots. Quand tu me dis démonter, ouais, alors qu'il perd en 5-7 et qu'il balade Federer pendant tout le match, c'est juste pas possible.
Bah, non, justement, il craque physiquement à 2-7-1. Justement.
Mais s'il craque physiquement, c'est pas techniquement alors.
Mais attends, laisse-moi finir. Justement, parce qu'il se fait travailler par le slice de Federer. Et pour moi, si Federer n'avait pas eu cette arme, Del Potro l'aurait emporté. Voilà. Donc pour moi, c'était la clé du match.
Ouais, voilà, c'est tout. Habib, ta conclusion sur Del Potro, et puis on passe à la saison des joueurs français.
Bah, ma conclusion, c'est que moi, je vois vers l'avant et pas vers l'arrière. Donc, si il se fait exploser, mais là, pour le coup, il se fait exploser à l'Open d'Australie. Il se fait battre en 5-7 à Roland-Garros. Puis ensuite, il va battre Roger Federer à l'US Open. Moi, j'ai plutôt tendance à voir que son problème de slice, tu vois, il le règle.
Ah oui, mais non,
si
mais
toi,
ça...
Tu vois ça de façon... C'est pas linéaire, quoi, ce que tu as fait toi avec ton analyse, parce que t'as commencé par un match, puis un match. Moi, je vois ça dans l'or, et dans l'or, tu vois qu'il a de moins en moins de problèmes contre les slices. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'un joueur.
Non, mais en plus, je parlais pas de ça. Marvolo, je parlais pas de ça. C'est, je revenais sur ce que disait Chris, que voilà, des fins tacticiens. Et donc pour moi, je disais que voilà, Federer n'avait pas eu besoin d'être fin tacticien pour.
Ah non, c'est vrai, Federer c'est pas fin tacticien.
Je pense qu'on ne mettra pas d'accord là-dessus.
Au bout d'un moment, on peut pas dire qu'un mec qui gagne 15 Grand Chelem n'est pas un fin tacticien. Et puis deuxième question, parmi les joueurs du top 100, qui sont les grands tacticiens?
Non mais c'est pas ça. Je voulais simplement dire que Federer, il avait pas besoin forcément d'user de ses talents tacticiens, etc., pour trouver que le slice allait gêner Del Potro. Ça, c'est physiologique. Le mec est grand, il va essayer de jouer dans ses pieds. C'est logique.
Oui, mais justement, ça marche plus. Ça marche plus maintenant, parce qu'on l'a vu à l'US Open. Et puis deuxièmement, tu me dis, il a pas eu besoin d'utiliser son talent tacticien. Ben si, justement. Si, justement, parce que quel est l'autre point faible de Del Potro, à part le slice? Et c'est même plus un point faible, maintenant c'est devenu un point où il est moins bon. À part le slice, c'est un point. C'est comme si je te disais que Nadal c'est pas un fin tacticien parce qu'il utilise des. Il va canarder Federer en revers sur sa diagonale. Bah oui, c'est comme ça. Ah oui,
mais sache que c'est une arme qui marche.
Bah c'est pareil. Alors pourquoi utiliser le slice, ça devient être. Justement, ne pas être un fin tacticien, c'est pas juste une arme qui marche. Ben si, c'est une arme qui marche, c'est pareil. C'est même pas une arme qui marche, c'est la seule arme qui marche.
Non mais je crois qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur le la définition de fin tacticien. Je propose qu'on passe à la question suivante. Peut-être faire une analyse de la saison, si on peut me permettre. Oui.
Attends, en fait, c'est juste qu'on s'est pas compris Marvolo, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est clair que moi, je voudrais juste finir sur Del Potro. Bien évidemment, heureusement qu'il a amélioré ce secteur de jeu, on va dire. Justement, de faire des séances au panier, de travailler justement sur baisser les cannes, surtout sur son revers, etc. Et voilà, il a progressé, ça s'est vu à l'US Open. Je voudrais juste rappeler qu'à l'US Open, c'est Federer qui perd le match, et c'est pas Del Potro. Enfin, c'est Federer qui perd le match.
Ah, les vases communicants! Non, mais tu sais, c'est toujours comme ça. En plus, de toute façon, on va pas se voiler la face. Tu n'aimes pas Del Potro, tu le sais très bien. Donc, c'est peut-être plus facile de dire. Je veux dire que c'est pas juste une phrase que je balance comme ça. On en a déjà parlé hors antenne. Je sais très bien qu'il n'aime pas Del Potro. Mais c'est comme ça. C'est toujours facile de dire il a perdu parce que l'autre était pas bon. Je suis désolé, c'est pas vrai. Alors pourquoi moi? Non, tu dis c'est surtout Federer qui a perdu. Ça veut rien dire cette phrase.
Ah oui, mais c'est pas parce qu'il était pas bon.
Mais ça c'est l'excuse du entre guillemets à la Djokovic. Il a perdu parce qu'il avait mal. C'est comme tout à l'heure quand on me dit je te dis moi en plus je vis en Espagne donc j'ai le droit à tout le temps des mecs qui m'expliquent oui mais Nadal il est pas bon parce que les balles sont moins liftables. Oui, d'accord. Mais moi je te dis alors dans ce moment-là que s'il avait Wimbledon c'est parce que le gazon des 90s va revoir du Ivanisevic Boris Becker, il me dit pas qu'il y a pas de ralentissement des surfaces.
Non, mais oui, mais c'était aussi un autre style de jeu, donc forcément t'as l'impression que ça va plus vite parce qu'il frappe plus fort. Mais sur Del Potro, juste pour revenir sur Del Potro, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais je te rappellerai quand même que Federer peut mener 2-7-0 et que inexplicablement il relâche la pression et permet à un Del Potro qui avait l'impression qu'il était totalement à l'ouest, qu'il était en train de dormir sur le court, et bien de se réveiller. Donc c'est Federer qui a permis à Del Potro de se réveiller et derrière Del Potro fait une excellente finale derrière. Voilà.
Ouais.
Mais après, voilà. C'est vrai. Non mais je pousse un peu le truc. Et je suis un peu salaud sur Del Potro. C'est vrai que c'est pas un style de joueur que j'aime bien jouer. Mais bon, voilà, quoi.
On en reparlera lors des 4 mousquetaires, tu vas voir.
Voilà. Donc voilà. On va parler maintenant de la saison des 4 mousquetaires. C'était la deuxième question lancée par le débat par Fabien. Et il nous a dit, Fabien, qu'on devait faire l'analyse, en tout cas, de la saison des 4 mousquetaires. Alors, je propose de commencer. Puisque je suis parti sur ma lancée, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Pour moi, les joueurs français, je parle évidemment que de Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Je ne vais évidemment pas parler de Richard Gasquet pour la simple et bonne raison que cette année.
T'enlèves tout le plaisir.
Non, mais vous devrez parler
de Gasquet. Tout à l'heure, je suis un bloc sur Richard Gasquet, là. Et tu me dis, on va parler de Gasquet.
Non, je vais dire que moi, je ne parlerai pas de Richard Gasquet. Vous êtes bien entendu libre de parler de Richard Gasquet si vous le désirez.
C'est pas qu'on va parler de Richard Gasquet alors.
Excuse-moi.
On va parler de Richard Gasquet alors.
Oui, non, mais je ne peux pas critiquer les résultats sportifs de Richard Gasquet pour la simple et bonne raison que pour moi, ils sont un petit peu... Il y a des contextes quand même. On peut pas dire que les problèmes qu'il a eus n'ont pas influencé ses piètres résultats cette saison-ci. Donc moi, ce que je peux espérer par rapport à Gasquet, c'est qu'il oublie un peu tout ce qui s'est passé et qu'il fasse une très bonne saison. Sinon, je pense que c'est la première question que je vais me poser. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Richard Gasquet n'a pas fait une bonne saison. Mais je répète que pour moi, c'est assez anecdotique par rapport... Enfin, en tout cas, c'est compréhensible par rapport aux problèmes qu'il a eu cette saison-ci à Bide.
Ah ouais, donc en fait, quand il perd contre Fernando González avant ses problèmes, c'est quand même la faute de ses problèmes. Et s'il est mauvais en 2008, c'est quand même à cause de ses problèmes qui vont jaillir au milieu de 2009 avec Janis de l'île de la Tentation.
T'as non, pas une petite victoire de Nal Mendian sur Gasquet?
Non, mais il y a des circonstances atténuantes.
Non, c'est, j'en parlerai pas de Nal Mendian, mon cœur est brisé. Non, non, mais plus sérieusement, circonstances atténuantes, non, je suis absolument pas d'accord, parce que c'est pas... Je veux dire que si, justement, il avait fait une très bonne saison 2008, et puis tout d'un coup, il s'écroule suite à l'affaire Drogman, là, j'aurais été d'accord. Mais là, c'est justement pas une... C'est pas une circonstance atténuante, parce que il était pas bon avant. Ouais. Il était déjà pas bon avant.
Ouais, mais il aurait pu être meilleur en 2009 s'il n'avait pas eu ces problèmes-là. Qui dit qu'il n'aurait peut-être pas fait une bonne fin de saison? Non?
Bah, il était déjà mauvais en début de saison.
Bon, avec des si on met Paris en bouteille. C'est vrai.
Non, mais voilà, je veux dire que pourquoi il serait devenu bon tout d'un coup?
Parce que des joueurs qui ont raté leur début de saison et qui réussissent bien leur fin de saison, ça peut arriver. Regarde, Juan Martí Del Potro.
Seulement Juan Martí Del Potro, il fait une bonne fin de saison 2008, tu vois. Il y a une lancée.
Il rappelle le début de l'année.
Gasquet, il fout rien depuis un an. Il fout rien depuis deux ans déjà.
Ouais. Donc, on va parler peut-être des autres joueurs. Enfin, je pense que Fabien a dit ce qu'il pensait par rapport à Richard Gasquet. En tout cas, il le dira juste après. Les autres joueurs, évidemment, les quatre mousquetaires, entre guillemets, comme la surnomme la presse française. Gilles Simon, Joëlfried Tsonga et Gaël Monfils, bien sûr. Bah, je pense que cette année, ils ont surtout confirmé qu'ils étaient d'abord des bons joueurs. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Mais surtout, ils ont prouvé, selon moi, que dans les grands rendez-vous, ça reste quand même deux wagons derrière le top 5. Murray, Djokovic, Federer, Nadal et Del Potro. Ça reste quand même deux wagons derrière ces joueurs-là. Et ça reste quand même aussi une petite wagonnette derrière des Söderling et Davydenko, évidemment. Davydenko, je prends peut-être pas le bon exemple, mais ça... Les joueurs français, en début de saison, avaient beaucoup, beaucoup d'attentes. C'est vrai qu'ils ont fait de très bons résultats en 250, en 500. Mais il faut quand même dire qu'il y a un blocage dans les grands rendez-vous. Quand les joueurs du top jouent à leur maximum, je pense que par exemple, personne peut nier que Federer est un joueur qui est beaucoup plus motivé dans les grands chelems que dans les petits rendez-vous. Enfin, c'est mon avis. Et on peut dire que là, il y a un blocage et que pour le moment, ils sont pas au niveau des meilleurs, hein, les quatre mousquetaires, là. Donc, ils doivent encore beaucoup bosser et faire de meilleurs résultats dans les grands rendez-vous pour avoir ce surnom de mousquetaire, selon moi. Est-ce que vous partagez ou non mon avis? J'ai déjà une petite idée sur la question.
Je vais laisser Fabien, et puis ensuite, je sors le shotgun. Allez.
Je me prépare. Je vais chercher le gilet par balle, j'arrive.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais moi, sur les quatre mousquetaires, déjà, il y en a un qui s'est un peu perdu en route, c'est Richard Gasquet. Après, je sais pas. Après, je vais plus arrêter de parler sur Richard Gasquet, mais bon, là, c'est vrai qu'il a grave cherché le bâton pour se faire battre, mais au-delà de ça, tout l'acharnement médiatique qu'il y a depuis le début de sa carrière, je trouve ça assez pitoyable. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard quand il recommencera à mieux jouer. Ça sera plus facile pour moi d'exprimer mon point de vue. Derrière, après, sur les trois autres Français, si on prend au cas par cas, son gars, il fait une saison correcte. Mais pas exceptionnel, c'est clair qu'avec son style de jeu, enfin, c'est clair qu'on attendait plus de lui, mais après en le voyant jouer, moi j'ai l'impression que voilà quoi, il reste un peu stéréotypé dans son style je tape, je frappe en force, en puissance, mais qu'il n'y a pas plusieurs schémas de jeu, enfin il a pas des solutions alternatives quand ça fonctionne pas. Moi j'ai le souvenir du match contre Del Potro à Roland Garros où il essaye d'envoyer des mines.
Et, ça marche très bien ça, les mines contre Del Potro.
Et Del Potro frappe plus fort que lui. Et il se retrouve un peu bloqué et puis il sait pas quoi faire. Donc c'est un peu l'exemple. De son gars, il a un schéma de jeu. Je frappe, je fonce, je fonce vers l'avant. Enfin, je me pose pas de questions. Mais quand ça marche pas, quand il y a un mec qui a du répondant en face, il a un peu de mal à trouver une autre solution. Après, sur Gilles Simon, quand même, sa saison, elle a été tronquée par sa blessure au genou. faut pas l'oublier, hein, depuis Roland Garros, il se la traîne. Il a quand même fait quart de finale, je crois, à l'Australian Open. Il fait huitième ou quart à Wimbledon, si je me souviens bien. Donc c'est pas non plus une saison aussi dégueulasse qu'on pouvait le dire. Moi, j'ai beaucoup entendu de monde et beaucoup lu de commentaires de gens qui disaient « Ouais, Simon, de toute façon, c'est pas un joueur de tennis, c'est une technique dégueulasse, etc. » Mais là, je suis d'accord avec toi, Marvolo, que voilà, quoi, son envie d'aller vers l'avant, elle est louable. Et surtout, bah, il faut le souligner, quoi, c'est pas un mec qui s'est cantonné de rester dans son style de jeu qu'il avait bah, la saison dernière. Il essaye de jouer plus vers l'avant et bah, faut le souligner. Et voilà, quoi, je pense que, enfin, ça serait, moi, je serais content que ça paye dans les mois prochains. Après, sur mon fils, bah, moi, j'ai mon avis sur mon fils. Hein, ce mec, il a un potentiel énorme, il a un coup droit énorme et il l'utilise pas assez. Il se contente trop souvent de ramer, etc., de rester 2 mètres derrière sa ligne de fond de court pour faire le show, pour faire le mec qui ramène toutes les balles, pour faire ses glissades. Mais à part ça, il prend pas le jeu à son compte alors qu'il a un bras énorme et qu'il pourrait envoyer des mines en coup droit. Voilà, moi je trouve ça un peu pathétique. Mon fils, franchement, il me déçoit beaucoup. Voilà.
Ouais, ton fils te déçoit beaucoup, mais maintenant je laisse la parole à Habib. Il a préparé son Riot Gun, mais fais attention Habib, ne dépasse jamais la ligne blanche.
Je la dépasse tout le temps, moi. Et puis la ligne blanche, c'est Gasquet, c'est pas moi. Donc maintenant que j'ai fini sur Gasquet, bon, sur Simon, j'ai pas grand chose à rajouter parce que je pense qu'on est du même avis. Après, sur Tsonga, ouais, c'est le Adriano du tennis, quoi. Ça passe en force, et sinon, bah, ça continue de passer en force. Le problème, c'est que quand il se fait taper par Del Potro, à la limite, j'ai pas grand chose à dire parce que bon, Del Potro est quand même supérieur dans quasiment tous les secteurs de jeu. Mais le problème, c'est quand il se fait battre plutôt par un Trojki. Alors moi, je l'ai vu le match en Thaïlande. Ce qui s'est passé.
Pardon, Del Potro, il se fait taper par Roger Vasselin. Donc chacun a ses matchs sans, quoi.
Ouais, la seule différence, c'est que Del Potro, il a déjà un grand chelem.
Ouais, mais un grand chelem un peu donné, voilà. Quoi, non?
Non, mais parce que tu me dis Roger Vasselin, moi aussi, tu sais, hein.
Non, mais la différence, c'est que le grand chelem, c'est
si tu justifies, là, si tu justifies le truc comme ça, moi je te dis, alors dans ce cas-là, son gars s'est fait taper par Guccione à Cincinnati.
Non, mais attends, si tu veux qu'on ressorte
les cas, tu vois,
les joueurs, y a pas de problème.
Non, mais on est. Bah, c'est ce que je te dis, le problème. Non, mais parce que tu m'as pas laissé finir, justement. Le problème, c'est que il se fait pas taper juste par les très bons joueurs, il se fait aussi taper par les joueurs moyens en chaleur. Parce que Trojki, ce jour-là, il était en chaleur. Quand il se fait taper par Söderling n'était pas en chaleur. Hein. Söderling, il était juste à son niveau. En son niveau de cette année, il l'a démonté. C'est un peu ça, le problème. C'est que, malheureusement, son gars, il y a quand même des joueurs un peu plus puissants que lui encore pour le moment. Et c'est justement ça, le problème. Parce que je veux te dire que c'est pas Trojki, tu vois, il a perdu contre Guccione, il a perdu contre Isner aussi.
Si tu me permets de te couper la parole, et là, c'est bien que tu parles de ça, parce que ça montre une des faiblesses en général des Français, c'est le retour. Les Français au retour sont assez pitoyables. Je me souviens j'avais vu
l'émission. Sauf ligne blanche.
De quoi?
Sauf ligne blanche.
C'est pas grave.
Gaston arrive.
Ouais.
Ah, il est bon au retour
de service, ils doivent vraiment progresser face à des gros serveurs. Un mec comme Tsonga, il a tendance à se frustrer énormément et à perdre son sang-froid et derrière à laisser filer un jeu de service et ça suffit face à des gros serveurs pour perdre. Donc ça, c'est un point que les Français doivent améliorer, dont Tsonga notamment, quoi.
Voilà, bah oui, parce que évidemment, hein, quand je parlais d'Isner, Guccione, Karlovic, c'est tous des gros serveurs, hein, donc forcément, il pète un peu sur eux. Mais le problème, c'est qu'il se fait pas battre que par eux. Il s'est fait battre à Halle par Tomias. Bon, après, Tomias est en état de grâce juste avant, sur la saison de gazon. Mais il s'est aussi fait battre par Ljubicic à Madrid. Il s'est fait battre à Rome par Gasquet. Et ça, c'est quand même très grave. Et donc voilà, tu vois, son problème, c'est que c'est vraiment un gros bourrin. Et que il me semble que dans un des épisodes justement de la saga sur Canal+, il y avait Henri Lecomte qui lui expliquait c'est bien, mais il y a parfois des moments où il faut temporiser. Tsonga il temporise jamais, et je pense que justement après, tu vois, je sais que tu es pas spécialement d'accord avec ça, mais avec l'uniformisation des styles de joueurs et que maintenant ça tend vers des joueurs qui frappent de plus en plus fort, je suis pas sûr que Tsonga puisse faire péter un grand chelem, mais c'est quand même un peu dommage parce que au final, c'est quand même un mec assez spectaculaire à voir jouer, Tsonga. Hein. Il a peut-être des défauts, mais tu t'amuses quand même vachement plus en regardant Tsonga qu'en regarder 95% des joueurs de l'ATP.
Non, mais c'est clair. Après, c'est à lui d'être intelligent et de faire évoluer son jeu, quoi.
Et puis pour mon fils, je pense que mon fils, lui, il a une vraie possibilité de gagner Roland Garros dans les années qui viennent, parce que ben, ouais, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs, hein. Franchement.
Tout à fait d'accord.
Il a un énorme service. Je pense que d'ailleurs c'est le meilleur service des Français, même si bon, certains placent son gars peut-être un poil au-dessus. Okay. Et puis, comme tu le disais, c'est il y a son petit côté Alfred Hitchcock qui est chiant, quoi. On a l'impression d'être en psychose où on est là, il est en train de ramer, et on sait qu'à un moment il y a la grosse droite qui va arriver. Et voilà, quoi. C'est dommage. Surtout, moi, sais pas si tu l'as vu. Cet été, il y avait un match contre contre Ferrero, qui était très 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 beau à voir jouer. Et justement, c'est ça le problème, parce que ce match-là, il a essayé de moins ramer et de plus attaquer, il perd. Donc, généralement, un tennisman, c'est comme ça que ça marche. Quand ça marche, quand il perd, il va
retourner. Attaquer, quoi. Il faut attaquer au bon moment. Il y a attaqué.
Non, il avait juste tenté d'attaquer plus. Ça avait pas marché, donc il s'est mis à. Eh ben, il est revenu.
Je voulais juste revenir. Là, tu dis que mon fils, il serait peut-être capable de faire péter Roland Garros, mais tu penses qu'en attendant, en conservant ce style de jeu, il va faire péter un grand chelem. Mais quand tu vois sa, je crois que c'était son quart ou sa demi là, son quart, je crois, à Roland contre Federer, mais c'était juste pitoyable, quoi. Il savait très bien qu'il fallait qu'il prenne le jeu à son compte, et le mec, il l'attend comme une merde, et il se fait niquer, voilà, quoi.
Quand je dis les années à venir, parce que tu vois, c'est pas sûr que Federer soit encore là, tu vois. Déjà, il faudra voir ce que ça va donner. Moi, je dis que dire tout de suite que, comme on en parlait tout à l'heure, que c'est plus les deux leaders du tennis, c'est peut-être trop facile à dire, trop rapide, trop simple. Mais ça n'empêche pas, si par exemple mon fils se trouve dans un tableau où il y a quelques défections, il peut vraiment, à la Jean-Claude Duss, quoi, hein, ça peut passer.
Ouais, peut-être une réaction pour avancer un peu dans le débat. Afin de le conclure aussi, de Fitch le Bordelais qui dit que le problème de Tsonga, c'est qu'il a du mal contre les joueurs qui tapent fort et prend des exemples, par exemple Chris Buchon, John Isner, Ivo Karlovic ou Robin, Söderling, et Roms qui nous dit très, très justement et avec manière assez drôle que c'est pas que contre les joueurs qui tapent très fort qu'il a ce problème-là. Peut-être encore une autre réaction de Fitch le Bordelais et qui vous fera peut-être réagir. Simon est un très bon retourneur et fait référence à la fin de saison 2008. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord par rapport à ce qui était dit, non ?
Non. Bah non. Bah, et très bon retourneur. Tu veux comparer le retour de Nalbandian, Gasquet ou Djokovic à celui de Simon ?
Excuse-moi, je parlais de Tsonga et pas de Simon.
Non, bah évidemment, sur Tsonga, il a juste répété ce qu'on a dit, hein, au final.
Donc, non, mais Simon, c'était une petite connerie, je pense, quand même. Même si, c'est vrai que à Madrid, bon, en même temps, il y a Tsonga, il a eu son état de grâce à l'Australian Open 2008. Bah voilà, Simon, c'était à Madrid, il se sentait plus, quoi. Et c'est vrai que je me souviens qu'en retour, il était quand même assez énorme, même au Masters. Mais voilà, il s'est refait un peu sur sa vague, il était dans sa bulle, etc. Mais après cette saison, dire que c'est un excellent retourneur, ça serait oublier les autres, comme tu l'as dit, Marvolo, les autres très bons retourneurs. Il est quand même un cran en dessous, hein, quand même.
Voilà. Je suis. De votre avis par rapport à ça, on peut, je pense qu'on a clos ce débat-là. On peut parler un petit peu de la WTA et des Masters qui commencent la semaine prochaine. Il y a un appel, nous sommes très demandés, apparemment, enfin en tout cas un de nous. Les Masters, et il y avait, figurez-vous, trois joueuses qui se bagarraient cette semaine pour obtenir le dernier ticket qualificatif pour les Masters. Parmi ces trois joueuses, il y avait Agnieszka Radwańska, la polonaise, il y avait Vera Zvonareva, la russe aux yeux bleus très beaux.
Il y a les oui, gens. D'ailleurs, tu vois cette hésitation, ça montre bien que tu ne vois pas beaucoup ses yeux.
Il y a que ça qui est beau. Très beaux yeux bleus, hein, on dirait, c'est la couleur océan. Enfin bon, c'est pas le débat de ce soir, et en plus il est. Enfin bref. Donc parmi ces trois joueuses, Radwańska, Zvonareva, Jankovic, ben c'est comme on pouvait le penser la joueuse la plus expérimentée des trois, c'est-à-dire Yelena Jankovic, qui n'a pas craqué tôt dans le tournoi. Ben, comme on aurait pu l'estimer et le pronostiquer, Radwańska et Zvonareva ont été battues d'entrée dans le tournoi. Elles savaient effectivement que si elles allaient loin dans le tournoi, ben, elles auraient pu gagner leur 8e et dernière place, la 8e et dernière place qualificative pour les Masters. Donc, je peux juste vous dire les 8 joueuses qualifiées, hein. Il y aura bien entendu la première joueuse à l'arrêt, c'est-à-dire au classement de l'année, Dinara Safina. Il y aura Serena Williams, il y aura Svetlana Kuznetsova. Il y aura la Danoise Wozniacki, la Russe Elena Dementieva, il y aura la Bélorusse Victor, je sais plus son prénom, Azarenka, il y aura Venus Williams et il y aura également donc la huitième, c'est Yelena Jankovic. Par rapport à toutes ces joueuses-là, est-ce que vous avez un petit pronostic pour les Masters féminins? Donc je répète, hein, Safina, Serena, Kuznetsova, Wozniacki, Dementieva, Azarenka, Venus Williams et Jankovic. Est-ce que vous avez un petit pronostic à nous faire part, histoire de voir si vous êtes des pronostiqueurs en herbe, ce dont je ne doute pas?
Bah, moi, je pense que Morisova a sa chance.
Et puis moi, je vais enchaîner dans le même esprit en disant quoi, c'est déjà fini la spéciale sport?
Non, pas du tout.
Maintenant, je regarde absolument pas quoi. Si c'est pour voir 14 bûcherons ukrainiennes à se taper dessus, à gueuler.
Ok, bah c'est tout. Donc non, mais je suis pas loin. T'as pas loin d'avoir raison quand même. Hein. On peut parler des résultats des finales qui ont eu lieu tout à l'heure. À Moscou, Mikhail Yuzny a battu Janko Tipsarevic en 3-7. Il a perdu le premier set au tie-break. Il a gagné le deuxième set 6-0, donc et il a enfin gagné l'ultime set 6-4. C'était plutôt accroché. Donc 6-7, 6-0, 6-4. Yuzny qui bat donc Tipsarevic. C'était un match plutôt indécis sur papier. Et Yuzny qui confirme que je crois qu'il a fait des bons résultats ces dernières semaines. C'est plutôt positif. À Stockholm, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Marcos Bagdatis a battu Olivier Rocus 6-1-7-5. Petite question, est-ce que c'est le renouveau pour le Chypriote Bagdatis qui a quand même eu une année assez difficile, hein, faut bien le dire.
Est-ce que ouais, tu as vu le tableau? Est-ce que tu as vu les adversaires qu'il a joués?
Circonstances atténuantes.
Ah, mais c'est ce que j'allais dire, mais c'est quand même sympa pour Bagdatis.
Non, c'est sympa, évidemment, mais renouveau, mais il va mieux, c'est logique.
Ah, voilà, c'est ça. Physiquement, toutes les merdes qu'il a eues, c'est quand même sympa de le voir gagner le tournoi. Même si, bon, voilà, quoi, la route est encore longue.
Et allez, avoue que tu l'aimes bien parce qu'il est dans le team Lagardère.
Ah, franchement, moi, Bagdatis, il m'a fait rêver. Hein.
En 2006, donc, ouais.
Ouais, voilà, en 2006, franchement, tournoi énorme et tout. Et puis après, je sais pas si t'avais vu un peu le petit reportage sur... Non, il est pas à la team Lagardère, il est à la Muratoglu Academy. Et je sais pas si t'avais vu le reportage avec les jeunes joueurs, franchement, c'était bien sympa. Enfin, voilà.
Non, mais c'est moi aussi, c'est un des joueurs que j'aime bien parce que déjà, il est beau à voir jouer. C'est un mec qui fait pas chier, qui se prend pas pour un autre, et puis
ouais,
après
voilà,
c'est ça. Problème, c'est normal, il fait partie de des joueurs qui ont une légère scoliose, donc forcément il aura tout le temps des problèmes de dos.
Ah
et
voilà, non mais
parce que ouais, là donc, on peut parler de tout en classement, mais il était vraiment très 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 loin.
Ah ouais, non mais ouais, bah là il a bien chuté avec tous ses pépins physiques, hein, parce que ouais, voilà quoi. Donc voilà, un petit clin d'œil sympa.
On va être un peu galant, hein, malgré que le niveau de la WTA n'est pas toujours énorme. On va parler donc des deux derniers résultats, les deux finales qui ont eu lieu aujourd'hui. Victoire de la Suissesse Timea Bacsinszky qui a fait un gros tournoi. Elle a battu l'Allemande Lissiki 6-2-7-5. Bacsinszky qui avait battu hier Wittmeier et elle m'avait fait une très forte impression. Je ne suis pas trop étonné de cette victoire. D'ailleurs, puisqu'on parle du tournoi de Luxembourg, c'était pas prévu, mais une petite parenthèse. Alizé Cornet retrouve peu à peu son jeu, j'ai trouvé, moi, que elle a trouvé aussi après le match dans son interview. Je pense qu'elle va revenir la saison prochaine dans le top 20 parce que j'ai l'impression que mentalement elle, c'est dommage pour elle que la saison soit déjà terminée parce qu'elle a vraiment l'air de revenir, etc. Et en plus c'est vraiment sympathique parce que c'est une joueuse très sympathique avec un jeu qui n'est pas trop atypique, pas une bourrineuse comme tu dis ukrainienne, je crois. Et donc c'est plutôt sympathique. Je pronostique moi peut-être le retour de Cornet au top la saison prochaine. Il faut qu'elle persévère et je crois qu'elle est sur la bonne voie. Moi je l'ai vu, elle a effectivement perdu contre Wittmeier, mais c'est une bonne chose. Peut-être un petit mot là-dessus, bref, petite parenthèse.
Ouais, bah, non mais comme tu disais, moi j'étais agréablement surpris par sa perf là, cette semaine, parce que bah, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, hein, c'est sa double défaite en Fed Cup il y a quelques mois lui a fait beaucoup de mal. D'ailleurs, elle a perdu confiance, elle a quand même fait une saison, elle a traversé la saison tel un fantôme, tel Casper. Donc voilà, c'est bien pour elle. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un peu dommage que ça soit maintenant la fin de la saison. Mais terminer la saison sur une note positive, c'est bien et ça motive, ça va, je pense, la motiver pour revenir encore plus fort la saison prochaine.
Ouais, et le dernier résultat, c'est la finale du tournoi de Moscou et la victoire de Francesca Schiavone qui à 29 ans remporte son seulement deuxième titre sur le circuit WTA. Elle a perdu 8 fois en finale, c'est quand même assez incroyable. Et elle a battu la Bélorusse Govoratsova 6-0, 6-3, autant pour moi pour la prononciation. Et tout simplement, elle a vraiment utilisé, je sais pas si vous connaissez Scavone, mais avec son jeu, c'est-à-dire son revers vraiment chopé, ses variations, son gros coup droit lifté, son gros coup droit gratté, elle a complètement déréglé la joueuse Grotsova, qui est une joueuse avec un jeu, comme tu le disais, hein, Habib, un jeu stéréotypé, jeu bourrine.
Bah, elle frappe tous comme ça. Hein. C'est pour ça que moi, j'aurais été plutôt content de voir Mauresmo revenir, parce que c'est une des seules qui était quand même un petit jeu de volée, assez agréable, tout ça, mais les autres, voilà quoi. Ça fera voilà. Fort et ça fera de plus en plus fort à chaque fois, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc maintenant, on va clore la partie tennis. Et avec
on va clore, je te donne juste le tirage de demain. Gasquet, qui a beaucoup de chance, premier tour à Saint-Pétersbourg, il tire sa fine.
Ouais, sa fine en fin de...
Ouais, mais bon, il est toujours capable de te faire chier, sa fine. Hein.
C'est clair. Il a un talent énorme. Peut-être qu'on parlera de sa fine lors d'une des prochaines émissions. Je crois qu'on a bien parlé de tennis aujourd'hui. Il est maintenant temps, avec Julien, de parler de rugby. Et la 10e journée du top 14 et la confirmation, entre autres, de Toulon, avec un Wilkinson, une nouvelle fois, bien décisif pour son équipe.
Oui.
Alors, Julien,
alors,
quels enseignements tires-tu de cette journée du top 14?
On va faire un petit tour complet. Le premier gros enseignement de cette journée, c'est Castres. C'est eux qui ouvraient la journée vendredi soir face à Bayonne. Et Castres a dominé largement Bayonne. Alors c'était un match à l'ancienne, sous une pluie battante. Et Bayonne a été complètement perdu. Ils ont joué beaucoup trop au pied, ils ont balancé des ballons. Et en face, Castres s'était bien organisé, s'était bien préparé. Et Castres, qui avait vécu une saison ultra galère l'année dernière, a réussi cette année avec les deux nouveaux entraîneurs, en enlevant certains personnages légendaires à Castres, comme Lionel Nallet, qui est parti au Racing. Et avec ces deux nouveaux entraîneurs, là, Laurent Labitte et Laurent Travers, ils ont réussi à trouver un équilibre. Et McIntyre a fait un festival au pied vendredi soir. Et on a vu la solidité de Castres, à quel point Castres peut être fort quand ils sont bien organisés. Et en face, Bayonne a été complètement perdu et Bayonne est en grosse difficulté. On est à 7 défaites en 10 matchs. Donc Salagoiti, le président, a dit qu'il confirmait Richard Dourte à la direction de l'équipe, mais il va falloir se réveiller côté bayonnais parce que c'est vraiment pas bon du tout. Et Bayonne est 13e, donc avant-dernier. Et il va falloir vraiment se bouger. Deuxième match important, c'était Toulouse-Biarritz. Toulouse a facilement négocié ce match. Il n'y a pas eu de problème. Ils remportent le match 23-3. Ils ont jamais été en difficulté. Ils concrétisent très bien avec notamment un joli essai de Yann David. C'était toute la puissance toulousaine vraiment qui s'est exprimée dans ce match. Deux essais. En face, Biarritz n'a jamais existé. Et là, on a vu vraiment à quel point... quand le stade toulousain est puissant, il est capable d'être inarrêtable, même pour un Biarritz Olympique qui fait pas un mauvais début de saison, mais à Toulouse en forme, c'est quasiment inarrêtable pour une équipe du top 14. Hein. Ensuite, autre match important, c'était Montpellier. Alors Montpellier recevait Clermont. Montpellier, c'est une des équipes un peu bizarres cette année, parce que Montpellier, ils sont capables de faire des matchs complètement... à côté, où ils vont se prendre une roustée pas possible. Et puis, à certains matchs, ils vont être soudés, ils vont être en forme. Et puis, ils vont réussir à faire un exploit. Ils l'avaient déjà fait contre Perpignan en début de saison. Et là, ils recevaient Clermont qui, comme toutes les années, on se dit comment ils vont retrouver la motivation. Ils la retrouvent. Ils étaient premiers avant cette journée. Ils étaient en pleine forme. Et là, Montpellier, a su rester soudé, a su rester solide, et en face, Clermont s'est énervé, c'est très rare que ça arrive à Clermont. Clermont, qui est des équipes les plus calmes, les plus solides, a complètement perdu son jeu, et en face, Montpellier marque un bel essai, et gagne ce match 16-9, solidement, à la maison, et un nouvel exploit pour Montpellier, qui vraiment a une équipe solide, hein. Et Ouedraogo, on a perdu Picamol, qui est parti à Clermont. Mais Ouedraogo, il emmène bien ses hommes et c'est vraiment une équipe intéressante, Montpellier, qui va toujours faire chier tout le monde, quoi. Vraiment, à chaque fois qu'une équipe ira jouer à Montpellier, il faudra faire attention. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Clermont, qui, je pense, reste une des équipes les plus puissantes de ce top 14 au niveau de l'effectif, de la qualité. Et c'est vraiment... Clermont, c'est la solidité incarnée. Et puis, alors, on en parlait tout à l'heure, c'est l'équipe dont on parle, dont tout le monde parle, c'est Toulon. Toulon qui a mis une rasque, une roustée, une raclée, tout ce que vous voulez à Bourgoin. Bourgoin qui a vu du Toulounais dans tous les sens. Mayol était en feu, 6 essais. Wilkinson a fait un festival. Et Bourgoin-Jallieu en face savait plus où mettre la tête. Et Philippe Saint-André est en train de réussir son pari. Et avec 5 victoires en 10 matchs, c'est du très bon Toulon. Et surtout un énorme Wilkinson, 28 points sur 48. Tout le monde disait que Wilkinson c'était un risque, que Wilkinson c'était pas sûr. Et ben pour l'instant Wilkinson c'est très 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 fort. Et même si il se blesse, on sait qu'il y a Conte Pomi qui va revenir de blessure lui aussi. Donc Toulon ça va être du lourd cette saison et ça risque de tenir longtemps quoi. Toulon c'est vraiment très fort. Et Bourgoin c'est toujours la galère. Bourgoin n'a plus d'argent, Bourgoin n'a plus de dirigeants. Mais Bourgoin va se battre jusqu'au bout et bon bah ils s'en sortiront peut-être. Mais et alors ensuite il y avait un match un peu étonnant, c'était entre Montauban et Albi. Albi c'est un peu comme Grenoble. On se demande un peu ce qu'ils font là quoi, parce que c'est 10 matchs, 9 défaites, c'est ils ont encore perdu contre Montauban 20-6. Il y a plus grand chose à faire pour Albi. On a l'impression qu'ils sont là mais qu'ils sont déjà des deux. Alors ils vont toujours pousser, ils vont défendre, ils vont mettre tout ce qu'ils ont dans les tripes, mais on sent qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors pour Montauban c'est bien, parce que Montauban c'était très fort l'année dernière, mais Laurent Labitte et Laurent Travers, on l'a dit, sont partis à Castres. Il a fallu reconstruire un nouveau au niveau de jeunes entraîneurs. Et Albi a pas su réagir. Et Montauban du coup respire, reprend de la vivacité. Et je pense que cette équipe a gardé une certaine qualité et sont capables de faire quelque chose. Et si ça va, si ça continue sur une bonne lancée, je pense que Montauban est capable de faire des belles choses. Mais il faudra toujours se méfier quand même. Ensuite, on va enchaîner avec l'avant-dernier match qui opposait Brive au Racing Métro, le promu de cette saison. Donc le Racing Métro qui allait à Brive qui avait décidé de construire une équipe énorme cette saison avec notamment Ricky Flutti. Et Brive est en ce moment dans très très grosses difficultés. Rien ne va plus. On sait que Patrick Sébastien, qui était le dirigeant de cette équipe, a décidé de quitter la direction la semaine dernière. Et depuis, ça n'a pas changé grand-chose. On attendait un coup de fouet à Brive. Rien à faire. C'est toujours pareil. Il y a toujours autant de difficultés. Brive est à 2 points du premier relégable. Et on sait plus trop quoi faire. Alors, on a confirmé Laurent Seigne à la tête de Brive. Sébastien était parti pour essayer de faire une sorte d'électrochoc, changer un peu tout. Mais on a dit faut changer d'entraîneur, faut changer dirigeant. On sait qu'il y a un gros financier derrière ça, c'est De Richebourg, qui est une des plus grosses fortunes françaises et qui a décidé de mettre tout son argent dans le club en faisant des grosses recrues cette saison. Il n'y a pas de résultat derrière, donc c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour les dirigeants financiers. Donc Sébastien est parti sous la pression, mais ça n'a pas été mieux. Le Racing a facilement dominé Brive. Wisniewski a inscrit tous les points au pied pour le Racing, qui a solidement joué, et le Racing, tranquillement, va faire une bonne saison. Le Racing, ça sera pas non plus... faut pas attendre le Racing. Ceux qui prétendaient déjà Racing en demi-finale, il fallait pas rêver non plus. Mais je pense qu'ils peuvent construire quelque chose de bien, solide. Et au fur et à mesure, c'est comme Toulon, il faut qu'ils montent les étapes les unes après les autres. Et ils y arriveront. Hein. Ça, le Racing est une équipe qui a de la qualité, ils vont avoir un nouveau stade. Il y a un projet très intéressant derrière toute cette équipe. Et je pense qu'il faut construire tranquillement. Et Brive en face, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire parce que cette équipe a de la qualité, a des joueurs de qualité normalement. Et ils ont des super joueurs. On connaît la qualité d'un joueur comme Ricky Flutie. On sait qu'ils ont gardé les joueurs solides de l'année dernière, Andy Good, tous ces joueurs-là. Ils ont un pack qui est très solide devant logiquement, mais malgré tout, ils prennent l'eau en ce moment et rien ne va plus et on sait plus quoi faire. C'est un peu, ça nous rappelle un peu le Stade Français et ça nous permet d'enchaîner puisque Paris, qui avait fait un début de saison pitoyable, a viré ses entraîneurs McKenzie et Dominici, qui ont été remplacés par Jacques Delmas, qui a repris l'équipe, qui a remis tout le monde la marche en avant, et le Stade Français est superbement bien reparti, a très bien joué les deux semaines dernières en Coupe d'Europe, et là il recevait à Saint-Denis au Stade de France Perpignan pour l'énorme affiche de ce match. Et Perpignan, c'est Perpignan, c'est toujours aussi solide, c'est toujours aussi fort. On se demande comment cette équipe arrive à garder une telle constance dans la facilité, dans la puissance de jeu. Enfin, ils ont vraiment été, moi j'ai vu le match, j'étais impressionné par. On a l'impression qu'il y a aucun souci qui peut arriver, quoi. Ils sont là, ils jouent et ils arrivent et au final ils gagnent à chaque fois quasiment. Alors il y a eu le gros hic, ça a été il y a deux semaines qu'ils ont perdu contre la minable équipe de Trévise. Petite dédicace à Edouard qui est à la radio aussi et qui est supporter de l'USAP et que j'ai beaucoup chambré sur cette défaite parce que quand même perdre contre Trévise c'est assez inadmissible, c'est comme perdre contre une équipe de CFA en Coupe de France pour une D1.
8-9, ça je sais, j'ai entendu.
Oui, c'était...
Bizarrement, quand un club joueur sportif français perd, l'information arrive.
Ah ben en plus celle-là c'était pas une défaite. Alors perdre contre des Italiens en Coupe d'Europe, c'est au rugby, c'est quand même Trévise a dû gagner un match depuis 10 ans en Coupe d'Europe ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment mauvais. Oui.
J'avais une question à Marvolo, ils sont où les Espagnols en rugby?
Je suis pas espagnol, je suis argentin. Je te rappelle la Coupe du Monde, pan.
Ouais, mais les Argentins savent pas jouer au rugby, par contre ils savent faire déjouer les autres, c'est tout.
C'est pour ça qu'on vous a mis 5 essais ou 4 essais, je sais pas.
Ça, ils sont
ça,
pas.
Ça ressemblait plus à ce que tu parlais, c'est pas vraiment du rugby, j'avoue.
On va peut-être laisser la parole à Julien pour sa conclusion.
Oui, on va finir avec Stade Français Perpignan, donc la jolie victoire 20-14 de Perpignan. Avec deux essais de deux joueurs symboles, Maxime Mermoz et Jérôme Porrical, le symbole de la constance de cette équipe qui est toujours là. Et... L'USAP avait été mis en cause, on avait dit qu'ils avaient trop fait la fête cet été, qu'ils s'étaient pas du tout entraînés. Et finalement, il y a aucun doute à avoir, Perpignan c'est solide Ah, il y a peu d'équipes du top 14 qui seront capables de rivaliser avec eux cette saison. Donc voilà, une saison intéressante, 17 essais inscrits, un bon bonus offensif pour Toulon, Montauban qui s'éloigne de la zone rouge, Albi qui quasiment mort, Toulouse puissant.
Merci Julien pour cette partie consacrée au rugby, si tu as quelque chose à ajouter un peu plus tard dans l'émission concernant ta conclusion, on t'écoutera volontiers. On va parler de l'automobilisme, bien entendu, et évidemment l'événement, je dirais, sportif de ce week-end, c'est la victoire de Sébastien Loeb au rallye WRC de Grande-Bretagne, une victoire conjuguée, à titre de champion du monde. Alors on ne doutait évidemment pas des capacités mentales de Sébastien Loeb, le champion du monde français n'a vraiment pas déçu. Avec une Citroën infaillible et un panache de géant, il a écœuré son principal rival dans la course au championnat du monde, le Finlandais Mirko Hirvonen. Celui-ci qui, en plus, a été victime d'un capot mal fixé, n'a pu que constater avec impuissance la supériorité du Français. Mais même si on enlève ce problème mécanique du Finlandais, il faut bien le dire que je pense que, franchement, qui aurait pu battre aujourd'hui Sébastien Loeb? Qui aurait pu battre ces trois derniers jours Sébastien Loeb quand on voit déjà la façon dont il avait écœuré vendredi le Finlandais, puisque souvenez-vous que vendredi, Souvenez-vous que vendredi, Sébastien Loeb avait mis seconde après seconde à Mikko Hirvonen, le Finlandais, quand il a arrêté quand il avait terminé ses spéciales. Il avait dit, je ne comprends pas, il y a sans doute un problème mécanique. Il a donc été voir dans son écurie, il a été voir s'il y avait eu un problème dans sa voiture, et les mécaniciens de Ford lui ont dit, pas du tout, tu es battu à la régulière. Donc là, ça a été très pénible pour lui. En tout cas, sixième titre des champions du monde pour Sébastien Loeb. Je crois que là, il atteint vraiment des chiffres absolument hallucinants. Fabien, c'est incroyable, ça.
Que ouais, dire bah, c'est clair. Hein, sixième titre consécutif de champion du monde des rallyes. Bon, faut dire, c'était vraiment pas... Bon, il l'a reconnu lui-même, hein, pas le plus simple à obtenir. Alors que pour moi, enfin, pour moi, il est largement au-dessus de Mirko Hirvonen, même si le Finlandais est quand même pas mal. C'est juste que bah voilà, Loeb, je crois qu'il a fait deux abandons consécutifs en fin de saison qui l'ont mis un peu dans le rouge en milieu de saison. Derrière, il est bien revenu et là voilà, sur ce rallye, il a montré qu'il était le plus fort, même si sur les dernières spéciales aujourd'hui, c'est un peu fait peur parce qu'il était un peu pris entre est-ce que je gère ou est-ce que je continue à attaquer, donc c'était assez difficile à gérer. Et finalement, il a su conserver un peu d'avance bah, pour être champion du monde. Donc c'est tout simplement énorme. Et moi, j'avais juste une petite crainte. C'était que, mais maintenant, je pense que bah voilà, elle a pas lieu d'être. Parce que moi, je me disais, est-ce que s'il y a OM Paris ce soir et Sébastien Loeb champion, l'équipe va quand même titrer sur OM Paris. Et je me disais qu'ils allaient faire cette connerie-là. Alors que pour moi, demain, la une de l'équipe, ça doit être Sébastien Loeb.
Ouais. Et juste peut-être pour préciser les chiffres depuis le début de la carrière du pilote Citroën, ils sont tout simplement édifiants. 54 victoires, 82 podiums, 647 victoires d'étape, 6 titres de champion du monde. Alors, petite question un peu idiote et simplette, mais je pense qu'on peut quand même la poser dans ce genre de circonstances. Est-ce qu'on peut le considérer, c'est difficile de comparer les époques, mais est-ce qu'on peut le considérer comme le plus grand pilote de rallye qui ait existé? Très bien.
Bah, je sais pas où quelqu'un. Je sais pas, moi, à la vue de son palmarès, c'est lui qui a le meilleur palmarès, c'est lui qui a le record de victoire, donc je pense qu'on peut répondre par l'affirmative. Hein. Ça, c'est pour moi, ça fait aucun doute sans faire de chauvinisme exacerbé.
Voilà. Ouais. Bah, sur Sébastien Loeb, que dire, c'est vraiment impressionnant. Il fait un début de saison très fort. Tout le monde, alors on a quand même réussi au début quand il fait 5 rallyes, 5 victoires. On parlait de grand chelem, de gagner tous les rallyes de la saison. Puis il y a eu le gros coup de mou. Et là, je pense que beaucoup ont été inquiets chez Citroën. Beaucoup ont douté de la capacité. Et c'est là qu'on reconnaît cet énorme champion qu'est Loeb, qui a su relever la tête et qui là, eh ben, il finit très fort. Et là où il s'était fait avoir face à Solberg. Pour son premier titre, et bah sur la dernière course, maintenant il est imbattable. Il a toute cette expérience derrière lui. Il a ses 5 titres derrière lui. Et donc c'est la solidité à Loeb et c'est cette facilité qu'il a à la victoire, à rester réaliste quand Hirvonen va faire l'erreur qu'il faut pas au dernier moment, quoi. Donc c'est maintenant il a tout, il a l'expérience, il a la reconnaissance. C'est le plus grand pour moi, quoi. Clairement.
Ouais, et en plus, il faut pas négliger aussi un petit détail, enfin, qui est quand même très important. Mmh. C'est que cette saison, il y avait que 12 manches au calendrier contre 16 l'année passée. Oui. Quand on connaît les épreuves évincées qui réussissaient, faut bien dire plutôt bien, à Sébastien Loeb, bah, franchement, je trouve que ça donne du crédit supplémentaire à sa réussite, encore bien que, effectivement, cette saison était très accrochée contre Hirvonen et que ça se joue finalement à rien. Je sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ça. Et, peut-être aussi une rumeur qui m'avait bien fait sourire il y a quelques semaines. Je suppose que vous, Français, on en a beaucoup, beaucoup parlé. D'ailleurs, c'est les médias français qui parlaient de ça. C'était la rumeur qui plaçait Sébastien Loeb au volant d'une voiture de Formule 1 en 2010. Quelle était votre réaction à la vue de cette rumeur? Ça paraît quand même très peu plausible quand on sait surtout que maintenant, pour être pilote de Formule 1, d'abord, depuis 2009, depuis le début de l'année, les essais privés en Formule 1 sont interdits. Ensuite, on voit que même les jeunes qui veulent arriver en Formule 1, ils galèrent parce qu'il y a une différence entre les moteurs. Et voilà. Et en plus, quand les champions de Formule 1 et même les bons coureurs les bons pilotes de Formule 1, ils font ça depuis des nombreuses années, ils font du karting. Donc moi, je pense que ça paraît peu probable. Et d'ailleurs, Sébastien Loeb, tout à l'heure, il avait dit que il a un peu botté en touche tout à l'heure par rapport à ça. Vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à ça, Fabien, Julien, je sais pas.
Vas-y, Julien.
Oui, et d'ailleurs, ça rejoint un peu l'autre champion du jour, qui est Valentino Rossi, puisque lui aussi, on a parlé beaucoup de lui, soit en rallye, soit en Formule 1. Ça paraît très difficile, ces échanges, de comme il est tellement fort en rallye, on va le mettre en Formule 1. On a aussi essayé, on sait qu'il a fait avec succès les 24 heures du Mans. Mais la Formule 1, c'est un autre niveau, c'est un autre professionnalisme, et je pense que c'est une formation comme tu disais, la plupart des grands champions de Formule 1, ils font du kart depuis qu'ils ont 12 ans, ils sont passés parfois par la Formule 3000, et après ils sont arrivés en Formule 1, et donc c'est un parcours petit à petit qui vient. Donc je pense que c'est assez inimaginable à cet âge-là de débarquer en Formule 1 comme ça, en n'ayant quasiment jamais fait, juste sur une expérience de rallye. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et puis je vais devoir y aller, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà.
Merci beaucoup. Bonne soirée à toi également. Un petit mot de MotoGP. Le docteur Valentino Rossi reçut 7 sur 7, 7e titre en MotoGP pour le pilote italien. Pourtant, il s'est fait peur parce qu'il est parti sous la pluie. Il est parti en pole. Il s'est fait peur en loupant le premier virage et en étant dépassé par Lorenzo, qui est dauphin au classement mondial et qui est parti dernier. Le mano à mano entre les deux s'est poursuivi durant de nombreux tours et ils ont dépassé les pilotes qui étaient devant eux. Valentino Rossi s'est même payé le luxe de devancer, de dépasser le Mallorquin à la faveur d'une superbe manœuvre, et donc il remporte son 7e titre en MotoGP, son 9e titre en moto toute grosse
série. Ouais, parce qu'il a été champion en 125 et en 250 aussi.
Exactement, il a eu deux titres, un en 125 et un en 250, mais ce titre-ci était un petit peu plus difficile. Est-ce qu'on peut penser que la saison prochaine, c'était le plus difficile de ces 7 titres? Est-ce qu'on peut dire que la saison prochaine, ça risque d'être une année difficile pour lui? Qu'est-ce qui intervenait là?
Bah, en fait, moi, ce qui est alarmant, parce que ce qu'il a dit aujourd'hui à la presse, c'est 9 titres, c'est déjà bien. Et je trouve ça toujours chiant, moi, quand un champion commence à parler comme ça, genre « Ouais, j'ai déjà gagné 9 fois, c'est déjà bien, pourquoi pas ?» Et puis bon, à la limite, pas chiant, mais dans toutes les phases de domination, ce qui est un peu embêtant, c'est de voir que même quand il change d'écurie, il continue à gagner, il gagne tout le temps, donc il va peut-être avoir envie d'aller tester sa chance en Formule 1, mais bon, comme vous l'avez expliqué, c'est peut-être un peu trop compliqué, quoi.
Ouais. Un petit mot aussi sur Andy Depinier, qui a fait une chute spectaculaire dans le premier tour et qui a fait une chute spectaculaire au classement général. Il est désormais 12e à 7 points de la 7e place. Et puis, il faut souligner aussi la belle victoire, quand même, ne pas l'oublier, du vainqueur de cette course. C'est Casey Stoner qui pourrait ravir la 2e place à Pedrosa. Au dernier Grand Prix, ce sera Valence. Il faudrait quand même un concours de circonstances assez incroyable. Il faudrait qu'il gagne la course et que Lorenzo ne soit pas classé, ce qui paraît très peu probable. On va parler maintenant de la partie cyclisme et on va conclure cette émission sportive sur la partie cyclisme avec tout d'abord une nouvelle qui a bouleversé le monde du vélo. C'est la nouvelle de la mort de Frank Vandenbroek, grand espoir du cyclisme. Il est décédé, le coureur belge est décédé à l'âge de 34 ans. Il avait un talent incroyable, il avait gagné Paris-Nice et Liège-Bastogne-Liège au début de sa carrière. Puis il avait eu beaucoup de problèmes de dopage, il avait été mêlé à toutes ces affaires-là et quelle triste fin quand même. Il est mort dans un hôtel au Sénégal. Une péripatéticienne lui a volé ses portables. Enfin,
c'est une pute, assez
suspecte et on ne sait pas encore. Il paraît que ce serait une embolie pulmonaire, mais tout ça, ça pourrait. Ouais, une pute. Ça paraît un peu suspect, cette mort-là. Et elle n'est pas sans rappeler cette mort-là, Marvolo. Elle n'est pas sans rappeler la mort de Marco Pantani, non?
Ouf. Je pense pas, parce que je connais pas suffisamment le cycliste en question. Et je vais pas te mentir, parce que d'ailleurs j'avais une question à ce sujet-là. Je voulais savoir, en fait, et ensuite je réponds à ta question pour savoir un petit peu. Je voulais savoir si c'était un vrai grand espoir. Ou un grand espoir à la française, quoi, style Le Talec, Maurice Bellet.
Mon avis, c'est que.
Bon, après, tu m'as dit qu'il a gagné la Paris, Paris-Nice, Paris et Liège, Bastogne-Liège. Malheureusement, mes références et ma culture cyclisme ne dépassent pas Pro Cycling Manager, donc tu vois que c'est pas ce qui se fait de mieux.
C'est déjà bien.
Donc, je voulais savoir si c'était une vraie grosse compétition ou.
Moi, je pense ça, mais je vais laisser Aurélien s'exprimer sur cette, sur ce sujet et sur cette question.
Habib, pour répondre à ta question, oui, c'était vraiment au début des années, à la fin des années, au début, en 98, c'était vraiment un grand espoir du cyclisme mondial, puisque, je veux dire, enchaîner Paris-Nice, puis après, un mois plus tard, Gent-Wevel Games, et l'année d'après, gagner Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment une performance que peu ont fait, et donc ça annonçait vraiment beaucoup. Après, la presse belge, au début, s'est forcément beaucoup enflammée en annonçant que c'était le nouveau Eddy Merckx ou je ne sais quoi encore, mais... c'est un grand espoir qui après a déçu et est tombé dans des affaires qui ont fait qu'on.
Ouais, j'ai vu que c'était une histoire avec il était un dépressif, la drogue, tout ça. Bon, le cycle entre guillemets classique du sportif déchu.
Et il a été contrôlé positif également. Voilà, ça a été, il a enchaîné les mauvaises saisons et, ouais. Et il voulait reprendre cette année et puis il a eu une mort. Naturel selon l'autopsie, donc je pense pas qu'on peut non plus, comme tu disais Habib, comparer sa mort à celle de Marco Pantani, même si les deux personnages se ressemblaient, même si avec Marco Pantani était quand même beaucoup plus charismatique.
Non, je parlais des similitudes.
D'ailleurs, parce que moi je peux t'expliquer rapidement. Donc apparemment, si c'est une embolie pulmonaire, c'est un problème de coagulation. Donc est-ce que le dopage, c'est vraiment ça? En gros, c'est une sorte de caillot qui va dans les poumons, donc tu vois, c'est pas spécialement. Je pense pas que ce soit une des conséquences du dopage, mais donc voilà, comparer Vandenbroek, donc apparemment à Pantani, ouais, c'est trop simple, quoi.
Ouais, je comparais plutôt l'étrangeté de la mort, parce qu'ils sont morts tous les deux dans une chambre d'hôtel, un peu isolés, un peu en dépression, donc c'était plutôt cet aspect-là, effectivement, la comparaison était un peu osée, flattée, je le reconnais. Alors peut-être un commentaire de Carou 76, il faut que je m'y fasse, Vandenbroek était plus présent depuis 2002, on peut pas lui donner d'or. 2002, c'était l'année, je crois, Aurélien, où ses problèmes ont commencé, je pense qu'il avait eu... une perquisition chez lui, etc. Et ça devenait, il roulait en continental depuis 2002 exactement. C'était vraiment l'année où le déclin a commencé. Et puis après, il est parti dans une pente descendante de manière assez exorbitante, Aurélien.
Oui, c'est ça. C'est en 2002 on a trouvé de nombreux produits chez lui, et donc ça a été la pente descendante. Mais pour réagir à Carou, il me semble qu'en 2003, il signe à Quick Step et il fait deuxième du Tour des Flandres derrière Van Petegem. Oui, c'est, je dis pas de bêtises. Et j'ai vu la course. Et du coup, mais après, oui, après, il a complètement disparu. C'est son dernier fait d'armes, parce que le Tour des Flandres, c'est une des plus grandes courses cyclistes. Et son dernier fait d'armes, après, il a complètement disparu, touché par les affaires et signant dans des équipes Continental Pro Tour obscures où il a pas su se faire remarquer jusqu'à sa mort il y a pas longtemps.
Ouais, Carou qui réagit, dit que. Il a duré 4 saisons au plus haut niveau, c'est vrai, mais on parlait surtout du talent, il avait un potentiel de talent. Je pense qu'il est de la même génération que Yann Ulrich et Lance Armstrong. Il avait vraiment, je veux dire, c'est un journaliste belge qui disait tu mets tous les coureurs cyclistes sur une île déserte et pendant 6 mois tu les fais boire de l'eau fraîche et pas de produits dopants, vraiment rien, en classe pure. Vandenbroek, il était sur le podium avec Ulrich et Armstrong, et je suis pas loin de partager ça. Effectivement, c'est son père disait d'ailleurs à sa mort. Et
je donc en gros, les trois premiers, ce seraient trois mecs qui ont été contrôlés positifs.
En tout cas, au niveau de la classe pure, ils en avaient. Ça, on peut pas lire après avec Armstrong ou Ulrich. Effectivement, il y a eu quelques contestations. Tu as quelque chose à dire sur Armstrong, Aurélien, je pense, à mon avis.
Sur Armstrong.
Ouais.
Parce qu'il vient d'être. Non, sur Armstrong, moi je suis pas du tout. Je veux dire, oui, ça a été peut-être avéré qu'il a été dopage, mais je veux dire, c'est un grand coureur, un très grand coureur qui mérite le respect et qui pour moi, je veux dire, une légende du cyclisme. Mais à tout jamais. Mais je voulais revenir sur ce que disait Habib avec sur Ulrich. Et c'est vrai que les années 98, 99 et même avant, c'est assez louche par rapport aux différentes affaires de dopage, notamment l'affaire Festina, et maintenant on sait avec la T-Mobile où c'est sûr que ils sont dopés pendant cette période-là. Mais ça a vraiment été une période où, en tout cas par rapport à aujourd'hui, moi je trouve comme disait Chris, les coureurs avaient la classe qui est pas vraiment classe aujourd'hui. Je veux dire, ok, Armstrong, Ulrich et Vandenbroek, ils se sont sûrement dopés. Mais ils avaient une image,
comme tous les autres.
Pantani aussi, que n'ont pas certains coureurs aujourd'hui. Et puis pour revenir sur le talent pur aussi de Vandenbroek, quand on voit son année 99 qui finit, qui fait des années, qui fait toujours des bons classements dans les grandes classiques, etc. Je veux dire, on s'attendait à beaucoup pour dans les années 2000. On attendait que un très très grand coureur et ça n'a pas été le cas pour de nombreuses raisons obscures.
Ouais, il avait une pression de la presse belge aussi, c'est enfin surtout de la presse internationale, mais ici en Belgique on lui a mis une pression. Tu as très fortement justement dit tout à l'heure que on l'avait comparé à Eddy Merckx. C'est vrai qu'on n'avait plus eu, il y a eu des champions depuis Merckx en Belgique, mais au niveau de la classe et du talent pur, on n'avait plus vu ça. Il y a eu Van Impe entre temps, hein, on est d'accord, il y a eu des grands cyclistes. Mais au niveau de la classe et du talent pur, si on ne prenait que ça, du potentiel, c'était sans doute un des meilleurs depuis Merckx. Et il a eu une pression aussi assez forte. Et justement, moi, ce que je me disais, j'avais lu sur un forum quelqu'un qui disait que finalement, les médias, ils étaient peut-être un peu responsables de ça. Parce que quand on sait, enfin, je vais peut-être pas m'avancer, parce que je trouve que celui qui avait écrit ça avait exagéré un peu en disant ça, mais il y a peut-être un fond de vrai. Quand on sait que beaucoup de cyclistes ont des destins comme ça assez tragiques, bon, je vais pas revenir encore sur Marco Pantani, on va dire que je fais un parallélisme, ce qui n'est pas le cas, mais est-ce que, à force aussi de toujours dénigrer le cyclisme, le considérant comme un sport où tout serait noir, où tout serait sale, et là où dans d'autres sports on laverait plus propre que blanc, alors que évidemment que c'est faux et que c'est aberrant de dire ça, est-ce que finalement la presse n'a pas un rôle aussi toujours à dénigrer ce sport et à dénigrer les sportifs, les cyclistes? C'est sûr que ça joue au niveau de la pression, hein, surtout quand on sait que bon, Van den Broek, il avait pas un mental absolument exceptionnel, hein, il était très fragile. Ça aussi, ça a joué, hein, non? Habib, tu avais une réaction par rapport à ce sujet-là?
Moi, c'est pas par rapport exclusivement au cyclisme, mais par rapport aux sportifs de haut niveau. Faut arrêter avec cette excuse à chaque fois. Dès qu'un sportif va mal, c'est toujours à cause de la presse. Tu l'as dit toi-même, s'il avait un mauvais, s'il avait un mental ou peut-être une exigence vis-à-vis de lui-même un peu moindre, et ben c'est tout, ça justifie ça. Je veux dire, je sais que c'est minable de tenir ce propos-là, surtout sur un mec qui est mort, c'est en dessous de tout, mais c'est peut-être trop facile aussi de dire qu'en fait, oui, ça aurait été un énorme champion si jamais... D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure de l'exemple, là, avec trois, tu mets tous les cyclistes sur une île déserte, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le gars, il a pas attendu la presse pour aimer faire la fête ou bon, il avait des vices quoi, je sais pas lesquels. Et mais bon, je trouve que c'est toujours trop simple de toujours dire qu'à chaque fois qu'un sportif n'atteint pas le destin entre guillemets auquel il était voué, que voilà, c'est toujours la presse qui est là, qui a fait non, il a été pas bon parce que pour d'autres raisons. Après, on va pas non plus se féliciter de la mort d'un cycliste.
Ouais, Carou qui ajoute. Que c'est la même mort que Mathieu Moncourt, fin de citation. Aurélien, tu as quelque chose peut-être tu as une petite conclusion, enfin entre guillemets, hein, sur ce dramatique épisode
extra-sportif. Sur la conclusion finale, je rejoins Abim, et puis je voulais rajouter en ce concernant le cycliste quand même l'info importante qui est tombée hier. Vas-y, je te laisse en parler. Mais sinon, c'est sur la conclusion, hein. Je suis d'accord avec Abim.
On referme la parenthèse Frank Van den Broek pour parler du cyclisme sportif et non extra-sportif, et donc tu l'as annoncé en primeur, c'est la disparition probable, en tout cas la non-licence, le non-renouvellement de la licence de l'équipe Astana, qui pose évidemment un gros problème et qui pose surtout la question de savoir où Contador peut aller. On sait très bien que, bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé dans le Tour de France, on sait très bien que entre Contador et certains membres de
l'équipe Lance Astana, Lance Armstrong
qui selon moi était divisé en trois parties, c'est-à-dire le clan Armstrong-Brunel, le clan Contador et ses potes espagnols, et le clan Kazakh avec Vinokourov. C'est vraiment compliqué d'avoir beaucoup disent deux parties selon moi. Astana, son gros problème, c'est que c'était scindé en trois parties, et en plus Astana, il y avait des problèmes financiers. Alors évidemment la question qui se pose, c'est de savoir où Contador va aller. La réponse la plus logique, ce serait de dire dans une équipe espagnole. Aurélien, je pense que tu as ton avis là-dessus, tu vas me dire. Et il y a une rumeur ici en Belgique qui fait état d'intérêt très très prononcé de Quick-Step, Patrick Lefebvre, le manager général de Quick-Step, qui n'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité autour de lui, on va dire, et qui serait prêt à débourser un gros chèque pour l'attirer dans son équipe et à attirer dans son équipe les coéquipiers, certains coéquipiers d'Alberto Contador. Quelle est ton impression par rapport à ce cirque Astana, Aurélien?
Eh bien, déjà, je voulais revenir sur Astana. En fait, c'est juste pour revenir sur Astana, ils vont peut-être avoir la licence, mais pour le moment, ils sont en attente. Donc, pour une raison juridique obscure, je ne suis pas assez bon en droit pour vous l'expliquer. Contador peut quitter Astana, mais peut aussi rester chez Astana s'ils ont une licence dans les semaines à venir. Et donc, Contador est libre. Moi, concernant Contador, je lisais encore ce matin, le soir, le journal de Bruxelles, qui pensait que Contador pourrait aller chez Quick-Step. En tout cas, en Belgique, comme tu le disais, Chris, on commence à rêver de Contador chez Quickstep, sachant que
Lefebvre a promis aussi.
Voilà, qui a promis que si Contador venait dans son équipe de recruter 5 coureurs de son choix. Et mais moi je pense que ce serait plus probable quand même de voir Contador dans une équipe espagnole comme la Caisse d'Épargne qui a fait un très gros recrutement et qui semble avec ce recrutement vouloir la venue de Contador. Or, le problème c'est que la Caisse d'Épargne et une autre équipe qui pourrait intéresser Contador sont aussi en attente d'une licence comme l'UCI, et une autre équipe qui pourrait être aussi intéressée par Contador, même si là je m'avance un peu, c'est-à-dire la nouvelle équipe anglaise britannique Sky, est aussi en attente d'une licence par l'UCI. Donc ça pose un vrai problème. Pour l'instant, la seule équipe qui a une licence Pro Tour et qui peut accepter et qui peut prendre Contador, c'est Quickstep, ce qui est un avantage considérable pour l'équipe belge.
Ouais, Quickstep qui serait vraiment une dream team du cyclisme parce qu'ils ont des bons sprinteurs, ils ont des bons rouleurs, ils ont des bons gars qui peuvent rouler sur les pavés du Nord et sur les classiques du Nord. Ça, c'est peut-être la meilleure équipe possible qui se fait en 2009 à ce niveau-là. Et donc, ça pourrait devenir une vraie dream team. On n'a pas encore parlé de Garmin, Habib. Mais toi, je pense que tu connais plutôt bien Contador de là où tu es placé géographiquement et peut-être que tu as plus d'informations que nous, qui sait.
Alors moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis moins le cyclisme et donc justement, je sais pas du tout ce que vaut Garmin, mais moi les trois équipes que j'ai entendues, c'est ça, c'est Caisse d'Épargne, Quickstep ou Garmin. À la Sky, moi j'avais plutôt entendu en fait que c'était Bradley Wiggins qui irait. Après, je sais pas si ça veut dire que... est-ce que le fait que Wiggins aille à la Sky, ça voudrait dire que Contador aussi y arrive? Je sais pas si c'est spécialement des mecs qui vont bien bosser ensemble, mais donc là je vous pose un petit peu la question pour savoir qu'est-ce que ça vaut en fait.
Il faut voir parce que effectivement les transferts ça va vraiment jubiler dans tous les sens. Alors quelqu'un dit que Quickstep, c'est Caro qui dit que Quickstep a personne pour épauler Contador, la raison pour laquelle Patrick Favre aurait proposé à Contador en plus du chèque très intéressant. La possibilité pour Alberto Contador de choisir 5 coéquipiers au choix, ce qui est vraiment un luxe énorme dans une équipe cycliste. Aurélien, tu as peut-être un avis par rapport à ça?
Oui, bah, je voulais revenir en fait sur ce que tu avais dit sur la Quickstep. Si Contador venait à la Quickstep, ce serait vraiment l'équipe, une des équipes, pour moi l'équipe la plus forte sur le papier pour la saison 2010, parce que avec une équipe qui va tout gagner sur les classiques Flandres. De début de saison, c'est-à-dire le Tour des Flandres, Grand Wevelgem, Paris-Roubaix. Ouais, mais avec Bonen, De Volder et Chavanel, ils ont quand même la meilleure équipe sur le papier et ils ont l'air encore favoris pour remporter ces épreuves. Et avec un Contador, ils peuvent viser les grands tours, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est vraiment, s'il vient, ce sera vraiment impressionnant. Sinon, je voulais aussi revenir sur la Garmin. Effectivement, si habite ton information sur laquelle Wiggins viendrait à Sky, ce serait une grosse perte pour la Garmin puisque c'était son leader sur le Tour de France. Donc ça pourrait aussi présager que Contador pourrait venir pour le remplacer. Surtout que Garmin a vraiment une très bonne équipe et pourrait être très intéressante pour Contador pour éventuellement le gagner le Tour de France pour une nouvelle fois.
Ouais. En fait, ouais, c'est parce que j'avais mal compris l'article. En fait, dans l'article, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, la Garmin libérerait Wiggins seulement s'il récupère Contador. Donc, ce serait bon là encore les vases communicants. Et sinon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de l'autre côté, c'est son agent et son frère Fran Contador qui a dit qu'en fait, avant de décider quoi faire avec Astana, il est en train de voir avec les avocats, parce qu'apparemment il y aurait une nouvelle loi signée en juillet qui explique que les coureurs pourraient partir si jamais ils n'avaient pas la licence. Ou bon, là pour le coup je peux pas vous expliquer, c'est un petit peu comme ce dont tu parlais, Aurélien. Parce qu'apparemment l'interprétation de cette loi est très particulière, donc ça va un peu dans tous les sens. Mais donc voilà, pour Contador, sinon lui ne parle absolument pas en Espagne. Hein. Dès qu'on lui tend le micro, il dit je verrai en fin de saison.
Ouais, mais je crois qu'on a bien longuement parlé du cas Contador. À l'occasion de faire une dernière conclusion par rapport au cyclisme, c'est la fin de la saison, vous n'êtes pas censé l'ignorer. D'ailleurs, je suppose que vous ne l'ignorez pas. Et donc, est-ce que vous avez un bilan? Est-ce que vous avez une image qui vous aura marqué cette année 2009? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué au cours de cette saison, Aurélien? Je pense qu'il y a beaucoup d'images, à mon avis, qui t'ont marqué.
Moi, cette année, particulièrement, j'étais particulièrement marqué par le début de saison. J'ai vraiment adoré le début de saison, quoi. Le Tour de Flandre a été exceptionnel, je trouve, avec la victoire, encore une fois, de Devolder. Ça a vraiment été un très bon début de saison. Après, le Giro a vraiment été d'une très bonne facture. Personnellement, moi, j'adore Menchov, donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'il gagne, même si, à la fin, il a vraiment contrôlé, donc ça n'a pas été le spectacle. On a été un peu gâché. Mais sinon, un Tour de France qui m'a, par rapport à certaines années, qui m'a peu marqué. Et moi, pour revenir à la fin de saison, l'image qui va rester, c'est quand même Cadel Evans qui gagne le championnat du monde, quoi. Ça a vraiment été une image très forte
aussi,
pour moi.
En fin de saison, Philippe Gilbert, peut-être aussi, qui gagne 4 courses en une semaine, c'est quand même pas rien. Dont, je sais plus quoi, dont Paris-Tours, à mon avis, et
le Tour de Lombardie.
Et Lombardie, effectivement. Habib, sur le même sujet.
Moi, c'est plus un coup de cœur qu'autre chose. C'est un des rares cyclistes que j'aime bien. C'est Alejandro Valverde qui a gagné enfin la Vuelta. Enfin, un grand titre, quoi.
Et qui est toujours privé de Tour de France. Moi, je comprends pas trop.
Et c'est en même temps une dédicace à Carou 76, parce que je sais qu'il aime bien ce coureur-là. D'ailleurs, Valverde qui a mis une belle branlée à Contador au Critérium de Alcobendas.
Ouais, et Valverde qui est toujours privé de Tour de France, et il y a une certaine hypocrisie parce que il est pas le seul qui est suspecté, je prononce bien mes mots parce que c'est très important, dans certaines affaires. Je pense que c'est l'affaire, j'ai oublié son nom là, le docteur Fuentes, c'est ça. Et donc, moi je comprends pas trop ça. C'est plutôt l'image négative, les organismes de France veulent toujours laver plus blanc que blanc. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs ils le font très bien, je dois l'avouer. Mais il y a quand même certaines contradictions. On fait venir Bonhomme, ils ont raison de le faire venir. Il y a la loi les interdit de ne pas le faire venir, et ils font pas venir Valverde, j'ai envie de dire, sur la tête du client, quoi, pour le plaisir de laver plus blanc que blanc, alors qu'on sait très bien que certains autres coureurs sont autant suspectés, voire plus, que Valverde. Peut-être que Aurélien, tu avais quelque chose à dire sur la Vuelta.
Non, je vais laisser à Vib qui voulait passer
en... En fait, ouais, c'était juste pour réagir à ça, c'est parce que moi, c'est exactement ce que tu dis, c'est un peu paradoxal de voir qu'on interdit à Valverde de participer au Tour de France, mais qu'en même temps, on est heureux de récupérer Contador et Armstrong, quoi.
Ouais, c'est sûr.
C'est très paradoxal. Ouais.
Oui, moi, je voulais revenir sur la Vuelta par rapport à Valverde, que j'adore et qui a été un super coureur quand il a gagné des classiques comme Liège-Bastogne-Liège. Mais la Vuelta, cette année, a vraiment été très médiocre, et il gagne, je veux dire, sans souci. Hein. Il était supérieur à tous les autres. Il n'y avait pas vraiment de concurrence, pas d'attaque. Il n'a pas été inquiété. C'était vraiment une piètre Vuelta, encore une fois, qui a été gênée par les championnats du monde qui, encore une fois, étaient très tôt dans la saison, ce qui fait que avec le Tour de France avant et le Giro avant, la Vuelta pâtit encore du calendrier cycliste cette année encore.
Et puis moi, de toute façon, ce que je voulais dire par rapport à Valverde, c'est surtout parce qu'en fait, ça me fait plaisir parce que il était toujours bien placé, jamais gagnant à la Vuelta, il a déjà fait 2-3 podiums, donc ouais, ça m'a juste fait un petit peu plaisir de voir pour une fois il réussissait à gagner un grand titre, quoi.
Voilà. Ah, mais je pense que, à moins que vous ayez une petite conclusion à faire, je pense qu'on a évoqué tous les sujets sportifs, en tout cas les principaux. On a essayé de faire du mieux qu'on a pu. On a passé un très très bon moment. Je le partage avec vous, en tout cas. Ce fut une première qui s'est, je pense, bien déroulée. On a pris beaucoup de plaisir. Je vais vous laisser le mot de la conclusion. Je vais remercier ceux qui ne diront pas le mot de la conclusion car ils sont partis avant. C'est-à-dire Adrien. Non, je suis pas sur la bonne page. En tout cas, ceux qui ont participé à cette émission, on les remercie. Ils sont partis un peu plus tôt. En tout cas,
donc c'était Jus et... Et Fab.
Et aussi, merci à Dan qui organisait cette émission de Main de Maître. Je vous laisse la conclusion. Prochaine. Manquez pas, tout à l'heure, à 22h, le débatteur sur la Ligue 1. Ça risque d'être passionnant.